à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Cette semaine, c'est un mag, et qui dit mag, dit live. Alors oui, on doit l'avouer pour ceux qui ne nous écouteraient pas en direct, hein, qui puissent ressentir les impressions comme s'ils étaient là, que ce fut laborieux. Mais nous sommes là, c'est bon, oui, on est là. N'est-ce pas Fab?
Oui, c'était un accouchement dans la douleur.
N'est-ce pas Jen?
C'est bon, on est bien là maintenant, c'est sûr.
N'est-ce pas Dino?
Ouais, je suis là, enfin libre. Oui, monsieur c'est... le Président, je suis prisonnier dans un département qui s'appelle l'Aisne. Sauvez-moi.
Oui, c'est ça, c'est les lois de Murphy. On fait un truc un peu bêta et tout, ça se passe nickel, très bien, super bonne soirée. Et puis, le jour où on se dit, ouais, c'est bon, on y va à fond... ben voilà, on était une Red Bull il y a 2 semaines et là on est une Marussia ce soir.
On a failli être une HRT hein, quand même. Oui. Ça s'est joué un peu.
C'est vrai.
J'avouerais que pendant 2 minutes j'étais HRT moi.
Ouais, HS surtout.
Voilà, donc déjà pour ceux qui nous accompagnent en live, vraiment désolé. Il y a eu une accumulation de petits soucis. Voilà. Mais on est là, c'est le plus important. Et on va pouvoir commencer, comme d'habitude. Hein, malgré cette soirée qui commence un petit peu compliquée, est-ce que ça va
Oui. Tendu quand même, parce que j'ai eu l'impression que le live ne pardonnait pas les fours. Donc finalement, j'ai peur ce soir, je vous l'avoue.
Dino,
moi je suis serein.
Dino, il semblerait que tu baisses un peu le son de ton micro.
Oui, c'est pas grave, tu sais, j'ai le chat moi aussi, je te dis.
Oui.
ça évite de faire du montage à celui qui enregistre après.
Oui, je sais.
Tu vois ce que je veux dire.
Et vous savez par quoi commence l'émission? Par quoi commence le mag?
Il commence mais par oui, là. Mais par quoi commence le mag?
Ah, j'ai cru qu'on allait récupérer les 3 quarts d'heure en passant cette étape, mais non.
Mais non, moi, si ça se trouve, ça peut être très rapide.
En plus, c'est lui qui a fait la question.
Bon, bah, ce sera plus 3 quarts d'heure. Hein.
Le service après-vente de la F1 vous présente le duel animateur contre chroniqueur. Cette fois, c'est chacun pour sa gueule.
Et cette semaine, oui, c'est moi qui m'y colle parce qu'en fait, personne n'y avait pensé et comme parfois personne n'y pense, eh bien, j'ai sorti une petite question du fin fond de ma poche, hein, parce qu'il faut bien qu'on fasse un petit quiz. Et le quiz cette semaine, c'est un peu une énigme. Hein,
oh non.
Si vous êtes prêts. Non, mais c'est très simple. Elle se résume en une phrase. Finalement, il n'y a que 50% de réussite. Mais de quoi je parle?
Moi, je pense qu'il faut tout de suite poser cette question quand même.
Oui.
Est-ce que ça a un rapport avec la F1?
J'osais pas la faire cette fois.
Ça a un rapport avec la F1.
D'accord. Bon, bah c'est bon, bah je vous attends, moi. Oui, là, Dino, on t'entend plus. C'est Dino, faut le savoir, c'est quand même un mec, il va d'un extrême à l'autre, quoi. Il n'y a pas de nuance.
Bon, là, ça va?
Là, ça va.
Ouais, c'est bien, là.
Alors, que voulais-tu dire, Dino?
Je sais plus. Est-ce que ça a un rapport avec une équipe spécifique en Formule 1?
Pas spécifiquement une équipe.
Avec
je
deux
peux
équipes.
Même dire qu'il n'y en a que 3 concernés, même si ce n'est pas le plus important.
3 équipes actuelles?
Oui.
Ah.
C'est le fait d'aligner 2 champions du monde et de remporter un titre avec?
Vous voyez ce type a 5 ans de SAV.
Putain, t'es facile, c'est en fait.
Ouais, c'est même... Tu vois, je suis même déçu. Moi, je m'attendais à ce qu'on parle de la statue de cire de Sébastien Vettel, je sais pas, de ce genre de truc, mais non.
Et donc, déjà, savez-vous combien de fois au cours de l'histoire de la F1, on a eu 2 pilotes déjà champions réunis dans une même équipe? Parce que c'est vrai, le plus souvent, ce qu'on a, c'est un pilote qui, parfois plus tard, devient champion, qui accompagne quelqu'un qui est déjà champion. Mais réunir 2 pilotes qui sont déjà titrés,
c'est relativement rare. Moi, je dirais 10 fois maximum.
Bah, sache que en 2014, le duo Raikkonen-Alonso sera en effet la 10e fois.
Ah ouais, il n'y en a pas
Prost
beaucoup.
Prost et Oda hein. Avant, de toute façon. Ils étaient déjà
pas. Oui, bah là, la deuxième saison de Prost chez McLaren.
Ah non, mais il y a eu Schumacher et Barrichello. Rappelez-vous, Barrichello, il était champion du monde à la fin de chaque saison.
C'est vrai. Encore aujourd'hui, d'ailleurs.
Prost, Loda, non, parce que quand Loda gagne son dernier titre, Prost n'a pas encore été titré. petite, c'est ça la subtilité.
Bah si, si, ils courent en 86 ensemble, et en 86 oui. Prost a le titre de...
En 86 de...
En 84. Ah non, non, 84.
Non, sont... non, 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 je dis n'importe quoi, voilà. 86.
Même si, alors, les, pour les 10K, il y a celui qu'on a beaucoup évoqué la semaine dernière, qui a été le premier, c'est chez Ferrari, avec Ascari et Farina. Cette année-là, Ascari a gagné le titre. Ensuite, il faut remonter à 67, où chez Lotus, on a vu Graham Hill et Jim Clark. Là, cette fois-ci, aucun titre, que ce soit constructeur ou pilote. C'est un duo qui aurait dû continuer, enfin, qui a continué en 68, mais malheureusement, Clark nous a quittés, il n'a fait qu'une seule course, il a gagné, malgré tout, mais bon. Alors, cette année-là, en 68, Lotus et Graham Hill ont gagné le titre. En 74, d'après vous, c'était qui en 74?
74, Fittipaldi.
Et qui accompagnait Fittipaldi?
Donc ça doit être chez McLaren.
C'est chez McLaren.
En 74.
Oui. C'est celui qu'on oublie tout le temps. Denny Hulme.
Bah oui, Denny. Sacré Denny.
Denny Hulme qui... Alors là encore, un doublé, hein, donc doublé McLaren-Fittipaldi. Ensuite, on arrive en 86, où là, en effet, il y a un duo de champions du monde, mais c'est entre Prost et... 86.
Rosberg, ça doit être une de ses dernières saisons.
Exactement, c'est sa dernière saison. Ça,
Rosberg, il a été champion du monde.
Oui, ne l'oublie pas.
Souviens-toi. Il y a Keke, il y a Keke.
Ça aurait pu faire des étincelles, mais apparemment, très vite, Rosberg a plus fait office de, d'équipier de luxe, hein, puisque Prost a quand même gagné cette année-là. Ensuite, on a 89.
D'accord, tu parles l'époque Prost. Parce que tu parles,
Ensuite, il y a 89. Prost et Senna sont tous les deux titrés, hein, puisque Senna est arrivé l'an dernier et a gagné son premier titre en 88. Donc là, doublé, hein, McLaren et Prost. Et puis alors, la période qui a un peu fait baisser la statistique de réussite, hein, c'est 2010-2012, hein, forcément.
Oui.
Hamilton et Button. La meilleure place de McLaren sur ces trois années, ça a été deuxième. Pour les pilotes, il y a eu la deuxième place de Button en 2011. Et sinon, à chaque fois, ils ont plutôt fait entre la quatrième et la cinquième place. Donc voilà, finalement, mettre deux champions du monde dans une même équipe, on peut le voir de deux façons, hein. C'est-à-dire que c'est vrai que si on enlève les trois dernières années de McLaren, ça fait quand même pas mal d'années où, à chaque fois, ça ramène quand même au moins un titre. Mais on peut aussi se dire que 50%, ça n'est pas une réussite assurée quand même.
Je crois sincèrement que 50% l'année prochaine pour Ferrari, c'est déjà une bonne cote. Je pense que Ferrari achète.
Quand t'es passé à quelques points du titre, quand même.
À un moment, mais 50%, c'est quand même plus que ce qu'ils ont cette année.
Ouais, mais voilà,
cette année,
quand
c'est
même,
0%.
Là, ils rachètent carrément l'équipe Lotus. Bon, enfin bon.
Bah, c'est ça, ils se connaissent tous chez Lotus maintenant.
Oui.
Il y a deux équipes en nul.
Et alors, à noter, j'ai vérifié aussi en termes de nombre de titres, puisque forcément, il y aura trois titres chez Ferrari, hein, 2 plus 1. Et en fait, c'est tout à fait dans la moyenne.
Attends.
Oui,
ah ouais, 3 titres.
Tu sais, 2 plus 1. Voilà.
Oui, non, mais je. Fallait que je.
Souviens-toi.
Hein. Ah, il date.
Et en fait, c'est tout à fait dans la moyenne, hein, puisqu'à chaque fois, bon, mais non, il y en a au moins 2, et c'est toujours 2 ou 3. Donc, c'est pas spécialement plus expérimenté que d'habitude en termes de. Ni moins, d'ailleurs. Donc voilà, c'était une question rapide. En même temps, hein, c'était un fond de tiroir, hein, il faut bien le dire.
Quand je pense que cette question-là passe avant une super question que j'avais.
Fallait dire oui, non, mais j'ai une question.
Ouais, mais en même temps, elle était pas super non plus au point de valoir qu'on s'interpose, tu vois. Là, après coup, je me dis, en fait, j'aurais peut-être dû m'interposer, mais non.
Sois content, tu as le pouvoir cette semaine.
Oui, oh.
Il fallait pas lui rappeler, il n'y pensait plus.
J'ai le droit de dire ta gueule à quelqu'un sur le chat ou pas?
Oh bah non.
Non, quand même pas. On laisse soigner nos petits auditeurs.
Ils sont gentils, ils sont
gus-gus. Même si vous êtes grands, hein, mais voilà. Monsieur, vu qu'on a passé rapidement sur le quiz, je vous propose de passer tout de suite au podium de l'actu. Avec l'actu.
Le service après-vente de la F1 vous invite à découvrir le podium de l'actu. Le seul podium au monde à géométrie variable.
Mais c'est quoi ces gens qui parlent sur les jingles?
Je rêvais de le faire depuis toute ma vie.
Est-ce que vous souhaitez qu'on attaque le gros morceau?
Allez.
On se demande de quoi on va parler.
Les pneus Pirelli me manquent.
Oui.
Cette nouvelle que l'on a appris, nous étions mercredi. Bon, en même temps, on s'en doutait quand même beaucoup après l'actu qu'il y avait eu la veille. Mais bon, voilà, c'est officiel. Il est de retour pour 2 ans chez Ferrari. Kimi Raikkonen sera de nouveau chez les Rouges.
C'est pas moi qui l'ai lancé ce jingle là.
J'allais vous dire, est-ce que ça va être le paradis? Est-ce que ça va être l'enfer? Visiblement pour Dino,
c'est le cimetière.
C'est le cimetière.
Ah non, non, moi je suis super heureux. Ah ouais. Moi il y avait deux bonnes décisions à prendre du côté de Ferrari. Soit mettre un vrai pilote, un vrai concurrent à Alonso, ce qui est le cas aujourd'hui. Soit faire monter un jeune pilote, faire monter Bianchi. Bon voilà, ils ont choisi la deuxième solution qui est un peu plus sûre et un peu plus raisonnable. Mais non, moi j'ai hâte de voir ça. Je suis impatient. Mais vivement la fin de saison. C'est con qu'il n'y ait pas les Vroom cette année. Ce sera amusé aux Vroom.
Bah, tu comprends pourquoi ils les ont annulés, hein. niveau salaire, ça doit pomper quand même là. Non mais très assez surprenant hein, quand même quand on regarde la chronologie des événements, parce que c'est vrai que c'était quand même une rumeur assez tardive au final. Ferrari, il y avait évidemment Red Bull, il y avait Lotus, il y avait même eu une incartade McLaren, mais Ferrari était venu en dernier, et c'est vrai qu'on on a commencé à vraiment en parler comme de quelque chose qui pouvait être tangible. Il y a quoi, il y a 15 jours, 3 semaines?
C'est redevenu tangible quand la piste Red Bull s'est fermée.
Ouais, mais
c'est là que c'est
ressorti. C'était pas plus tangible que la piste Lotus, finalement.
Non.
Après, est-ce que quand il nous a dit certains trouveront ma décision stupide, c'était pas déjà préparer ce terrain-là, quoi, ou en tout cas admettre dans une certaine manière que c'était
un gros teasing, hein, Kimi Raikkonen. On voit bien au niveau com, les publicités qu'il fait pour Renault, etc. Je trouve que justement, il est à fond là-dessus, donc.
Mais c'est un duo intéressant quand même, parce que effectivement, on attendait beaucoup une opposition de grands champions à notre époque, quoi, à notre génération. Là, c'est sûr que, en plus chez Ferrari, qui est quand même là aussi une situation très nouvelle pour eux, parce que, comme on l'a dit, alors sans remonter aux grands champions, au seul champion du monde qu'ils ont fait courir ensemble, Ascari et Farina, des oppositions de pilotes de grand talent chez Ferrari, c'est pas la norme, hein. Quand on regarde sur les 15-20 dernières années, on a eu des oppositions de pilotes d'un niveau équivalent, mais c'était pas des oppositions de pilotes de grand talent. Là, on est face à quelque chose de nouveau, ce qui amène aussi à mettre en avant la volonté de Ferrari de faire bouger les lignes, sans doute devant une domination pratiquement inarrêtable de Red Bull. On sent bien que aligner deux champions du monde, avoir une politique agressive de recrutement, c'est aussi une manière de montrer quelles sont les ambitions, parce que là avec une telle équipe, il va être difficile de justifier l'absence de vrais résultats. Au moins sur le plan du titre constructeur, je pense. Alors après, on ne sait pas quel sera le niveau des voitures, mais sur ce plan-là, Ferrari se positionne clairement comme l'équipe la plus complète. Après, est-ce que ça ramènera le titre pilote, là, vraiment, tout dépendra de la voiture, quoi. Mais c'est effectivement très intéressant à suivre.
Moi, ce que je trouve passionnant dans cette histoire, c'est que celui qui a clairement fait venir Raikkonen, c'est Montezemolo.
Oui.
C'est-à-dire que Montezemolo, qui l'avait poussé par la porte et dont on a toujours dit que leur relation était très très houleuse, Montezemolo, dont on dit qu'il est parfois très fier, il a mis sa fierté de côté, il a fait revenir Raikkonen à coup de millions, parce qu'on sait que c'est un salaire autour de 20 millions. Enfin voilà, Kimi Raikkonen va être très largement en tête du salaire des pilotes. Déjà rien que ça, c'est fort, et je pense surtout que c'est d'autant plus fort que ça marque peut-être une rupture entre Montezemolo et Alonso. C'est vrai qu'il y a l'ambition derrière de reprendre l'envergure et de, pour le coup, peut-être vraiment jouer un titre et le titre constructeur, surtout qu'en face avec Red Bull il y a Ricciardo et que on peut s'attendre à ce que ça souffre un peu et que ça baisse de régime, mais surtout en interne, c'est un message fort qui est envoyé à Alonso, c'est la Scuderia Ferrari n'est plus l'écurie de Fernando Alonso. Et c'est même relayé aujourd'hui par Felipe Massa, qui déclare dans la presse, maintenant moi je suis plus numéro 2, je vais attaquer, je vais y aller à fond. C'est un changement énorme chez Ferrari, la Ferrari des 4 dernières années. Voilà, Alonso n'est plus maître à Maranello.
Ah bah c'est clair que on imagine mal Fernando Alonso demander à ce que Kimi vienne. Enfin, on lui a pas demandé son avis, ça c'est clair. Il aurait jamais accepté qu'un Kimi Raikkonen vienne avec lui dans l'équipe.
C'est un peu comme ce que disait Dino, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de, d'idées reçues, quoi, sur la façon dont les pilotes perçoivent leur environnement, sur la façon dont, peut-être, par exemple, sur le Raikkonen et le fait qu'il s'est brouillé avec Ferrari, est-ce que c'était si net que ça? Est-ce que quand on parle de Raikkonen, on parle pas de quelqu'un qui est de toute façon déjà assez détaché des choses de la F1, déjà sur le plan sportif, alors sur le plan politique, je pense qu'il, même si on peut pas en être complètement détaché malgré tout, mais lui, ça a l'air d'être quelqu'un qui a vraiment pas ce genre de préoccupation en tête. Alors est-ce que c'était aussi marqué que ça? Est-ce que ça justifiait les commentaires qu'on a pu lire comme quoi il y avait vraiment une mésentente, qu'il avait été mis dehors avec perte et fracas? Enfin, si on se souvient bien de la saison 2009, c'était quand même une lente agonie de Raikkonen, complètement démotivé depuis la mi-saison 2008. Donc voilà, enfin là, c'était surtout que Raikkonen n'était plus capable de grand chose. Il a eu bien sûr ce coup d'éclat à Spa en 2009, mais après bon, c'était quand même une saison bien morne pour lui. Après, moi, Alonso, ça lui a certainement pas fait grand plaisir d'apprendre que Raikkonen venait, mais en même temps, je pense que comme tu le sous-entendais, Dino, il s'y exposait un petit peu. Et toute la communication de Ferrari depuis quelques semaines, même la sienne, hein, quand il se prend en photo avec les tifosi à Monza, c'est d'une certaine manière une façon de pour l'establishment de Ferrari, de dire Alonso, c'est plus le roi. Ça l'était déjà plus vraiment avant l'annonce de Raikkonen, mais là maintenant, c'est clair et net. Effectivement, bon, Massa, on reviendra dessus après, mais du côté d'Alonso, c'était aussi déjà le fait qu'il savait très bien que il fallait qu'il gagne finalement sa légitimité, même si elle est grande, sa légitimité, c'est pas la question, mais il fallait qu'il gagne un petit peu un surplus d'amour ailleurs, et il l'a peut-être gagné auprès des tifosi. Mais c'est sûr que toute la communication, et même celle qu'est actuellement de Montezemolo, c'est vraiment une communication d'équipe, quoi. Une communication de selon laquelle les intérêts de l'équipe prévalent sur les intérêts particuliers. Et c'est ça qui est assez intéressant, parce qu'effectivement, on est sur un gros changement vis-à-vis des trois saisons précédentes et du début de saison. Mais justement, parce qu'on est peut-être arrivé à un point où on se dit que Alonso seul, finalement, ne peut pas y arriver, malgré tous ses efforts. Et alors, puisqu'Alonso seul peut pas y arriver avec l'aide d'un porteur d'eau, on va lui mettre quelqu'un d'autre. Et c'est un petit peu les réactions globales, quoi, quand tu regardes, quand tu lis les réactions d'à peu près tout le monde. Alors, outre ceux qui prévoient que ça va mal se passer, il y a ceux qui prévoient qu'au contraire, ça va booster Alonso et que dans ce cas-là, on pourra avoir un affrontement vraiment de haut niveau, quoi.
Vous pensez que ça peut bien se passer? Parce que c'est vrai que beaucoup de gens disent non, deux coqs comme ça dans une même basse-cour, ça ne le fera pas.
Mais le truc, c'est qu'il y a le précédent McLaren qui impliquait Fernando Alonso. Donc nécessairement, on est obligé de se dire ça ne peut que mal se passer, puisque ça s'est mal passé à l'époque. Maintenant, faut remettre aussi les choses dans leur contexte. Avec McLaren, c'était pas véritablement un problème. C'est d'ailleurs, de toute façon, quand il y a un problème entre deux pilotes, c'est jamais véritablement un problème entre deux pilotes, c'est un problème entre les pilotes et l'équipe, parce que l'équipe, à un moment donné, n'est pas capable de mettre les choses au clair. Ou parce que chacun a l'impression que l'équipe le trahit. Donc ça peut déchanter si Ferrari n'arrive pas à gérer le truc. Le vrai test, c'est pas pour Alonso et Raikkonen, qui, je pense, font leur boulot chacun du côté de leur garage, mais c'est pour Ferrari, pour réussir à contrôler et à donner à ces deux champions ce qu'ils exigent. Là où, par exemple, Alonso s'est senti trahi par McLaren, parce que il était mis en concurrence ouvertement avec un rookie, alors que lui, il avait signé un an auparavant, avant même d'arriver chez McLaren, il avait signé dès 2005 pour venir en 2007. Il avait pris des garanties et compagnie, et là, il arrive, et en fait, on lui met un deuxième pilote qui est la future étoile montante, et que de toute façon, en interne, on a bien l'intention de lui donner les mêmes armes que le double champion du monde en titre. Donc, ça va dépendre de la manière dont Ferrari va gérer les choses. Le scénario va pas se répéter juste parce qu'il y a Alonso qui est impliqué. Le scénario peut se répéter si Alonso se sent floué. Maintenant, ce qui est un peu rassurant pour Alonso, c'est que ça n'est que Raikkonen à côté de lui. C'est pas un Vettel qui sera un peu comme ça à vouloir dévorer l'équipe. Raikkonen, il va faire son boulot de son côté. Il va pas forcément chercher à bouffer le terrain d'Alonso. Il va faire son espace. Après, voilà, c'est comment est-ce que l'équipe va basculer. C'est la grande question. C'est est-ce que l'équipe ne va pas en avoir à un moment donné marre d'Alonso et se tourner. C'est le risque d'avoir fait revenir Raikkonen, se tourner vers un Raikkonen qui reste quand même le dernier champion du monde de la Scuderia, qui reste quelqu'un, malgré tout, qui a une bonne cote de sympathie, qui a pas laissé non plus de mauvais souvenirs au sein de l'équipe. Voilà, donc ça va être ces questions-là.
Oui, enfin, d'autant qu'en plus, tu peux pas occulter ce qui se passe en coulisses avec un nombre impressionnant, au moins déjà deux ou trois membres de Lotus qui vont faire le voyage inverse. Et donc forcément, déjà, on n'est plus tout à fait dans l'équipe de Fernando Alonso. On est dans une équipe hybride, une équipe qui connaît pour partie Raikkonen pour sans doute avoir travaillé avec lui de 2007 à 2009, et une équipe qui le connaît pour avoir travaillé avec lui sur les deux dernières années. Allison, Debert, Murphy, c'est des gars qui connaissent Raikkonen, qui même dans le cas d'Allison apparemment ont vraiment participé activement à sa venue, hein, en expliquant qu'il avait évolué sur un certain nombre de points, dont la technique, la mise au point des voitures. Donc on est déjà plus tout à fait dans la même équipe, et on est déjà pas dans une équipe qui a priori prendra fait et cause, si ça doit se passer, pour Alonso.
C'est ça, en plus, c'est que c'est une équipe, finalement, quand tu regardes les gens qui sont aujourd'hui aux responsabilités, qui sont venus ces dernières années, elles ont travaillé avec Raikkonen et avec Alonso. Allison a travaillé avec Alonso. Pat Fry a été chez McLaren de longues années. Il a sans doute travaillé chez McLaren à l'époque où Raikkonen y était. Enfin, voilà, c'est quand même des hommes qui connaissent les deux. Donc, pour le coup, même Ferrari, il faut pas venir un autre champion du monde qui viendra avec ses hommes. Il faut venir un mec qui a déjà travaillé chez Ferrari, donc qui connaît déjà les lieux, qui est déjà acclimaté. Pour le coup, c'est vraiment, ils ont formé une équipe. Ça peut être très très intéressant à voir l'année prochaine.
Puis c'est l'idéal pour qu'ils aient une bonne voiture. Parce qu'avec la nouvelle voiture qui va avoir les nouvelles motorisations qu'il va avoir pour l'année prochaine en 2014, on a Raikkonen, comme il le disait, il y en a plein qui le disent, c'est un pilote qui apparemment ressent la voiture sans. Enfin, c'est un pilote à l'ancienne, c'est qui disait ça, je sais plus, c'est Jacques Villeneuve, qu'il a pas besoin de tout ce qui est les nouvelles technologies, etc., comme les nouveaux pilotes, il ressent la voiture, et donc c'est ce qui est peut-être l'idéal pour Ferrari aussi, pour développer une super voiture pour 2014.
C'est un avantage, mais en même temps, c'est un risque. C'est vrai qu'il y a deux pilotes qui ont des styles très différents, et voilà, enfin, forcément, aujourd'hui, je pense qu'en termes à la fois le pilotage et compagnie, il n'y a pas plus opposé que Raikkonen et Alonso. Donc, ça peut être intéressant en termes de comparatif, effectivement, d'avoir des pilotages différents. Après, tu peux aussi t'exposer au risque d'avoir un pilote qui ira mieux dans la voiture et qui peut te fausser un peu l'impression parce que le style va lui convenir. C'est toujours le problème d'avoir deux coques. C'est à un moment donné lequel t'écoutes, à qui tu donnes du crédit. Là, aujourd'hui, on savait très bien qu'il fallait faire la voiture pour Alonso. Donc, bah, Massa a donné son ressenti. Mais au final, il fallait que la voiture convienne à Alonso. Donc, on faisait on s'adaptait au ressenti de Alonso. Là, si jamais Raikkonen se sent bien avec la voiture et Alonso se sent pas bien, qu'est-ce que tu vas faire?
Dans quel sens développer la voiture? Ouais, ça c'est sûr. Après, ça sera en fonction de pilotes. Alonso, il a un contrat pour combien de temps encore? Il est encore pour 2 ans, non? Avec
jusqu'en 2016.
2016.
Qui sait qui pourrait bien venir?
Il y en a qui ont dit hein, que c'était que Alonso Raikkonen, c'était déjà pour préparer l'arrivée de Vettel. Hein. Il y en a qui se sont
dit. Mais non, pas Vettel, non.
Bon, sinon, pour revenir sur Raikkonen, il y a aussi un truc quand même qui a fait son effet, c'est la réaction de Lotus. Et oui. Ce fameux tweet que tout le monde a vu, qui a presque fait plus
j'ai
de
très
bruit
imagé.
Sur même. Oui. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on voyait deux lapins qui bouquinaient. Oui, parce que ça s'appelle aussi comme ça.
Oui, mais c'est moins parlant. Faut que tu trouves autre chose.
Oui, mais c'est bien comme ça, les gens ils regardent sur un dico et ça. Tiens, un lapin qui bouquine. Non, ah, c'est ça.
J'étais en train de baiser.
Voilà. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus de dico, Shinji. Mais
ils vont sur Wikipédia. Quand je dis dico, c'est Wikipédia. Donc c'est Lotus qui, à peine quelques jours avant, disait « Oui, on va montrer des choses à Kimi d'ici la fin de la semaine pour le convaincre de rester. » Eh ben, ça n'a pas suffi.
C'est une grosse erreur de com', cette photo. Ça donne un côté cool, voilà, ça donne un côté... la première réaction qu'on a tous eue, c'est de dire « Ouais, c'est génial, la communication, ils disent vraiment ce qu'ils pensent. » Mais une fois que ces trucs, c'est, t'as le temps d'Internet, t'as le temps de la réaction sur Internet, puis après t'as le temps quand même de la réaction classique. Et on s'est demandé pourquoi cette photo, pourquoi envoyer ce message, même s'il est fun, pourquoi envoyer ce message ? Est-ce que c'est du second degré, genre une blague de potage sur Twitter, ou est-ce que vraiment ça traduit un sentiment profond ?
Oui,
et là d'un coup, on commence à poser des questions, et je suis pas sûr que de la part de Lotus, ça a été une idée aussi fameuse que ça. Je pense qu'ils auraient pu se tirer une balle dans le pied que de se dire on a mal au cul, quoi.
Ça a dû être pensé très vite sur le coup, hein. C'est vraiment très très spontané pour le coup. Donc peut-être est vrai.
Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est les liens, c'est la relation en fait entre Lotus en tant qu'équipe de F1 et le département communication, quoi.
Est-ce que le département la même équipe en fait.
Ouais, est-ce que le département communication c'est pas deux gars qui sont effectivement des salariés de d'Enstone peut-être, voilà, mais qui sont dans une pièce tout seul. Voilà, fan de lapin et d'autres joyeusetés quand
même. Savoir c'est est-ce que derrière chaque tweet, il y a une véritable politique de communication, une vraie ligne, ou est-ce que c'est juste des mecs à qui on a donné les clés de Twitter, on leur a dit voilà, vous faites une communication jeune et dynamique et puis voilà, ils sont un peu lâchés quoi.
Parce que ça fait quand même un peu tweet de personnes surprises quoi par la, alors que c'était quand même dans l'air, qu'on avait beau, ça a beau être arrivé assez rapidement, il y avait au moins une bonne semaine qu'on s'en doutait quoi. Ça fait communication de voilà de truc vraiment surprenant quoi. Alors est-ce qu'ils ont eu des discussions est-ce qu'ils connaissent Raikkonen, parce que de ce que disait Boullier, lui par contre disait qu'il y avait un travail. Alors après tu parles de ça comme tu veux, nous on sait pas, mais je veux dire il y avait apparemment une certaine concordance quoi entre les communications de Raikkonen et la communication de Lotus, c'était fait plutôt de pair. Donc voilà, est-ce que c'est les personnes qui s'occupent de la communication sur Twitter qui se sont senties flouées et qui ont exprimé ça au nom de l'équipe en n'ayant pas conscience d'impliquer toute l'équipe Lotus, ou est-ce que c'était une réaction calculée? C'est ça qu'il faudrait savoir, mais là, en l'état actuel des choses, c'est pas facile. Mais en tout cas, ce qui est sûr, comme disait Dino, c'est que c'est une erreur au nom de Lotus.
C'est une fausse bonne idée, quoi.
C'est effectivement la première réaction, c'est de se dire ah ça change, c'est marrant, ça reste marrant comme ils le font souvent d'ailleurs, c'est les maîtres dans ce domaine-là sur Twitter, sur les réseaux sociaux, ils sont à peu près imbattables, hein. Mais effectivement on n'est pas dans un, c'est pas un sport de plage quoi, enfin c'est la F1, il y a beaucoup d'implications derrière, tu n'impliques pas que les gens de la communication, enfin c'est ça qui est problématique.
Et en plus, ce qui est dommage, c'est que ça subit un précédent tweet avec photo, où ça, c'est une image qui a été faite avec une couronne et tout, et où c'est rester calme, laisser Kimi décider. Oui, mais si tu laisses un pilote décider pour derrière exprimer que t'as l'impression de l'avoir dans le cul, pour le coup, t'es en train en fait de dire que ta communication d'avant, elle était un petit peu, on va le laisser décider, ouais, bon, c'est un peu. Ça faisait un peu l'équipe cool qui gère bien la situation, alors qu'en fait, bah non, il la gérait pas bien, c'était vraiment que de la com. Donc en fait, c'est un tweet qui a même détruit toute leur précédente campagne de com, où ils essayaient d'être un peu détachés par rapport à ça, et où en fait, on se rend compte qu'ils étaient pas du tout détachés.
Bah, ça fait un peu communication d'une personne trompée, quoi.
Oui.
C'est-à-dire une réaction très, comment dire, très vive dans l'instant, quoi.
Et après, ils regrettent.
Oui, bah ils se sont excusés, je crois, d'ailleurs.
Oui,
apparemment, ils se sont excusés, on me dit sur le chat.
Ah ouais, ce qui est sûr, c'est que Ferrari n'ira pas piquer le directeur de communication de Lotus, non?
Non, apparemment, c'est un secteur...
Il devrait, peut-être, quand même.
Mais il devrait, là, surtout. Les deux sont assez extrêmes là-dessus.
Mais bon, pour revenir quand même sur le choix de Raikkonen, c'est un choix par défaut, faut être honnête. Kimi Raikkonen, c'est là où on voit quand même le pilote qui est aussi, voilà, un peu formaté, qui sait ce qu'il faut dire. Sa première action, c'est je suis très content de revenir et compagnie. On sait très bien qu'il aurait préféré être ailleurs, que voilà, il va chez Ferrari parce que Lotus ne paye pas assez et qu'il n'a pas les garanties techniques chez Lotus qu'il peut avoir chez Ferrari. Et puis, on sait très bien qu'il va chez Ferrari parce qu'il n'a pas pu aller chez Red Bull. Enfin, voilà, donc. C'est un peu un choix par défaut, c'est un bon choix aussi, parce que ça reste malgré tout une bonne solution.
Comme défaut, quand même.
Oui, ouais, mais ça reste quand même, je pense, dans l'esprit de Kimi Raikkonen, ça reste clairement le troisième choix.
Et donc, pour passer peut-être à l'actu suivante, qui est dans le prolongement, forcément, c'est que, n'oublions pas, Kimi remplace quelqu'un. Et ce quelqu'un, j'ai envie de dire, depuis qu'on sait qu'il sera plus chez Ferrari, Eh ben, on ne parle que de lui. J'ai rarement vu autant d'articles sur Felipe Massa.
C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, en fait, en même temps, il en dit des choses.
Oui, oui.
Ça l'a libéré, ce truc, c'est dingue. Il parle, il est content.
C'est même limite dommage.
Il veut même jouer sa carte, dis donc.
Oui, oui, oui. Il dit, voilà, je joue ma carte pour la fin de saison. Waouh.
Oh, à tel point que Montezemolo a été obligé de dire à la presse, non mais on fait confiance à Massa pour son esprit d'équipe et compagnie. Mais Massa, il est un peu en train de suivre la pente de Barrichello, quoi. C'est encore une fois, on est un peu sur le même thème que Lotus. C'est voilà, quand ça se termine, je clash un peu sur mon équipe, voilà, en disant que je vais maintenant je vais montrer de quoi je suis capable. Je suis plus un numéro 2. Mais si tu voulais plus être un numéro 2, fallait pas l'être, tout simplement. Fallait pas obéir, fallait te faire respecter. Il s'est pas fait respecter, donc je trouve toujours un peu facile Massa ou Barrichello à son époque de venir derrière dire ah oh ouais, maintenant je vais me battre et compagnie, je vais montrer que bonne me chaud. Mais fallait le montrer avant, quoi. T'avais la voiture, tu te serais pris sans doute les pieds dans le tapis, tu te serais fait virer, mais au moins t'aurais montré ce que tu valais et t'aurais eu une autre voiture. On serait peut-être allé chercher ailleurs. Là, tu le fais parce que on te vire et que du coup, parce que c'est ça, on le vire quand même. On te vire. Et donc du coup, comme il faut que tu te montres un peu, bah tu joues un peu la gloriole en disant bah je vais me battre, je vais être numéro 2, je vais montrer ce que je sais faire. Bah ouais, mais je trouve ça malheureusement, c'est dommage parce que il avait bien réussi sa sortie, il avait annoncé ça la veille, Ferrari l'avait laissé annoncer la veille et compagnie, c'était fait dans le bon ordre. Il pouvait sortir proprement de chez Ferrari et là il clash un peu, même si dans le lot il y a quand même des déclarations plutôt louangeuses sur Alonso et compagnie, mais globalement on le sent quand même très amer et un peu revanchard à l'encontre de Ferrari et c'est dommage.
Et c'est ça qui est paradoxal, parce que il bave sur Ferrari, mais en même temps, il arrête pas de, enfin, il adule Alonso derrière en même temps, donc, on se demande ce qu'il pense réellement, en fait, là, Massa.
Moi, je vous trouve dur avec Massa, très franchement, parce que, justement, on a connu la communication de Barrichello, après son départ, une communication, effectivement, aigrie, on a perçu des bribes de ce qu'aurait pu être de ce que pourrait être, même si je pense qu'il est beaucoup moins concerné parce que il reste pas dans la discipline, mais celle de Weber avec sa petite phrase à Top Gear à l'encontre de Vettel. Je trouve que Massa a pas une communication de mec aigri. Il a une communication de pilote qui veut jouer son va-tout dans une autre écurie de pointe, entre guillemets.
Son objectif, c'est Lotus.
C'est ça, il a son objectif, c'est Lotus, c'est d'ailleurs apparemment assez avancé quand même, et son objectif c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est de se démarquer de la position de porteur d'eau qu'il a été contraint d'adopter de par ses résultats et aussi parce que au bout d'un moment on lui a demandé aussi de le faire dans beaucoup de domaines, hein. Ça concerne pas que le domaine sportif et les grands prix, ça concerne aussi le développement de la voiture. Il le dit lui-même dans une de ses interviews, il dit dès le vendredi dit je vais travailler pour moi. Donc après, moi je sais pas si on va le laisser faire, à mon avis non, mais de toute façon voilà, sa volonté c'est de dire voilà, il y a peut-être des raisons qui expliquent que je sois autant largué. De toute façon, très sincèrement, quand tu écoutes ses interviews, il essaie même pas de se placer au niveau de tous les pilotes contre lesquels il a couru. Le seul où il pourrait, c'est Raikkonen, parce que bah voilà, en 2008 et 2009 il l'a surpassé malgré tout, mais il essaie pas de se placer au niveau d'Alonso et de Schumacher. Il sait très bien qu'il n'en a pas le talent. Après, il n'est pas dans, comme vous dites, quoi, il n'est pas dans l'attaque envers Alonso. Il ne reproche pas à Alonso d'avoir pris l'équipe à son compte. Il ne reproche pas vraiment à Ferrari d'avoir créé une hiérarchie. Enfin, il l'a accepté. De toute façon, il l'a de fait accepté à partir du moment où il a laissé passer Alonso au Grand Prix d'Allemagne 2010.
Mais c'est justement ça le problème aussi. C'est-à-dire que c'est peut-être ce vers quoi ça va mener. C'est peut-être une reconnaissance du fait qu'il s'est laissé enfermer et qu'il s'est enfermé lui-même dans un rôle de numéro 2. Maintenant, c'est toujours un peu cet aspect-là de dire maintenant je vais montrer ce que je vaux vraiment sur le terrain, je vais me battre face à Alonso et compagnie. Sincèrement, c'est juste, je trouve extrêmement dommage de l'entendre dire ça alors qu'il sait qu'il part. Voilà, si tu devais te battre et que tu devais montrer ta valeur, fallait le montrer avant, quoi. C'est pas au moment de partir parce qu'il faut que t'ailles trouver un baquet ailleurs parce que sinon t'es condamné au DTM ou à la formule Chevrolet.
Ah bah oui. Mais...
Qu'il faut, voilà. En ça, je trouve que ça ne grandit pas forcément Massa. Après, c'est le jeu, mais je préférais qu'il fasse ses preuves sur la piste, qu'il effectivement se batte. Et d'ailleurs, on le sentait déjà au Grand Prix d'Italie que face à Alonso, voilà, il n'avait pas envie non plus de. Et ça met aussi en relief, par exemple, les qualifications, le fait que Massa n'attende pas véritablement Alonso, enfin en tout cas que l'écart se creuse, comme par hasard en Q3, peut-être que Massa a voulu jouer sa carte. Enfin, voilà, je trouve que. C'est envers son équipe, mine de rien, c'est une certaine forme de manque de respect, même si je pense que Ferrari lui en a parfois mis pas mal sur sur la tête. Mais voilà, je trouve que c'est un peu regrettable de partir en disant maintenant je pense à ma gueule, quoi.
Ouais, moi je suis d'accord avec. Enfin, je veux dire, si Massa dans le rôle qu'on lui a offert, on lui a pas non plus demandé d'être largué. Hein. Je suis bien d'accord avec ça. On lui a demandé justement d'être le moins largué possible pour favoriser le plus possible Alonso en prenant des points à la concurrence. Ce qu'il a pas toujours fait, ça, on est bien d'accord. S'il avait pu le faire, il l'aurait fait. Il n'avait sans doute pas les capacités. Après, moi, on sait pas exactement l'étendue du travail qu'il fournissait pour Alonso. On sait très bien qu'il fournissait du travail de développement aussi pendant les séances d'essai. Bon, on sait très bien que pendant une séance d'essai, si tu travailles pas pour toi, ça peut tourner au vinaigre. Enfin, on l'a vu sur le dernier Grand Prix avec Bianchi par exemple, qui surpasse Chilton, mais qui était pratiquement qui avait Chilton dans ses échappements pratiquement toute la course. Mais sur le Camassa, on est quand même face à un pilote qui sait très bien qu'il a une chance de se recaser dans une équipe à peu près valable la saison d'après. Il le faut ou pas, ça après à chacun de juger.
Moi je pense qu'il le faut parce que je pense justement qu'on n'a pas vu chez Ferrari le vrai Massa. J'étais parmi les premiers à dire qu'il fallait qu'il aille chez Lotus et que c'était un très bon choix pour Lotus parce que voilà, moi ça fait des années que je dis que Massa seul dans une équipe entre guillemets seul, mais voilà, sans être étouffé par un coéquipier, c'est un pilote qui peut être excellent. Et moi c'est ce que je trouve un peu dommage, c'est que ce pilote absolument excellent en train un peu de nous dire que là il était moins bon parce qu'il était numéro 2. Bah oui, mais t'étais aussi numéro 2 parce qu'il n'y avait pas forcément non plus que la supériorité d'Alonso qui expliquait ça. C'est juste aussi parce que t'étais pas bon. Enfin, t'étais moins bon. Il a eu des moments où il était très mauvais. Donc, quitte à faire son bilan, je trouve qu'il, pour le moment, il est en train d'esquisser un bilan de numéro 2. Bah oui, mais tu t'es aussi mis dans la position du numéro 2. T'as strictement rien fait ni pu faire pour t'y opposer. Mais il y a quand même une part de responsabilité de son côté à lui.
Ouais, mais c'est sûr, mais ce qui me
plaît, faut être clair, hein. Moi, vous l'avez appris cette semaine, je suis fan de Ferrari. Donc les mecs ils tapent sur Ferrari.
Ouais, ouais. Waouh. J'ai failli annuler ma participation à l'émission, moi, quand j'ai appris ça. Hein. Il a fallu une grosse revalorisation salariale pour que je revienne.
Vous pensez que Massa sera chez Lotus l'an prochain, à la place ou peut-être avec un Hülkenberg, parce qu'on peut tout imaginer.
Visiblement, quand on a interrogé Boullier à propos de Grosjean, il a dit que oui, Grosjean serait là en 2014.
Donc ça serait plutôt...
C'est pas encore officiel, mais Grosjean est bien installé, visiblement.
J'ai pas entendu... Boullier a fait aucune déclaration en disant que Massa allait être... tout cas sur la liste, non, parce qu'il a parlé d'une Hülkenberg, ça c'est sûr.
Si, il a bien dit
que Hülk était sur la liste, mais Massa, je ne sais pas.
Si, il a parlé de Massa, il a dit que Massa, évidemment, était sur la liste. Sur la liste. Donc,
et Massa lui-même a dit que Lotus était un de ses objectifs.
Ah, Massa, oui, j'ai vu qu'il l'avait dit.
Et Boullier a lâché une petite phrase aussi, il a dit en 2014, l'expérience sera plus importante que la vitesse. C'est pas forcément quelque chose qui va donner la clé pour le transfert, mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et je voudrais aussi attirer l'attention sur les mouvements en coulisses là encore, parce que il se dit que pour en contrepartie du transfert chez Lotus de l'aérodynamicien en chef Dirk De Baere, donc vers Ferrari, il y aurait la venue Alors bon, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais de l'aérodynamicien en chef de Ferrari chez Lotus, Nicolas.
Que Ferrari a accepté de renvoyer le mec qu'ils veulent remplacer par le mec de chez Lotus.
Voilà, c'est bon.
Bientôt ils vont choix, leur offrir même la soufflerie. Tenez, on vous file notre soufflerie.
Et donc il se dit que ça pourrait être un mouvement qui serait lié à un autre mouvement, bien sûr celui de Massa vers Lotus. Justement. Alors après, quel crédit accorder, on verra sur pièce. Mais
c'est la même logique qui envoie d'ailleurs Massa chez Williams, parce qu'on parle de Rob Smedley, le race engineer, l'ingénieur de course de. Je voulais me la péter en parlant d'anglais. L'ingénieur de course de Felipe Massa chez Ferrari depuis qu'il y est, je crois d'ailleurs. Chez Williams, où il aurait un poste un peu plus important, un peu plus général. Et donc, ça pourrait effectivement augurer de l'arrivée de Massa chez Williams. Après, en cas de départ de Maldonado chez Lotus.
Après Massa. Vous voyez
qu'en ce moment, Hülkenberg est en train de se dire merde.
Ça, ce serait con, hein, franchement, parce que c'est je pense que c'est un bon pilote, Hülkenberg. C'est pour ça un duo Massa-Hülkenberg, ça pourrait être pas mal chez Lotus également. Ça serait dommage pour Grosjean, mais.
Ah là là, t'es méchante envers Grosjean.
Mais arrête! Je suis la première à le défendre chez moi, en tout cas, quand il y a un Grand Prix.
T'es méchante envers Total. Grosjean, à mon avis, ils feront pas exactement la même erreur que l'année dernière. C'est-à-dire que si ils veulent le confirmer, ils le confirmeront assez rapidement. Déjà, bon, dans un premier temps, parce que c'est un pilote qui était là en 2012 et 2013. Quand tu perds l'autre, c'est bien d'avoir une continuité, c'est sûr. Même si avec les changements réglementaires, enfin, en tout cas, le travail sur la voiture 2014 a déjà commencé. On l'a vu avec Lotus. Et puis, faut pas oublier qu'effectivement, on le dit souvent en déconnant, mais Total a une part importante dans l'écurie Lotus en matière de sponsoring, et Grosjean fait partie du package, quoi. Donc moi il me semble que Grosjean, à moins d'une énorme bourde sur les courses qui restent, est pratiquement assuré d'avoir son baquet. Enfin, je vois pas vraiment ce qui pourrait l'en empêcher, quoi. Vous dire, à part vraiment que, surtout que je pense que là on aura peut-être un peu plus de, comment dire, de, entre guillemets, d'équité dans la répartition des évolutions à venir, de fait, parce que on pourra pas les confier à Raikkonen et il faudra travailler avec quelqu'un qui sera là l'année prochaine.
Oui.
On pourrait avoir un Grosjean peut-être un peu plus en forme sur les courses qui restent. En tout cas, il faudra qu'il le soit de toute façon. Mais Grosjean, c'est quasi assuré, quoi.
Mais de toute façon, c'est quelque chose qu'on verra à peu près chez toutes les équipes. Hein. Je ne pense pas sincèrement qu'on arrivera au mois de janvier avec un baquet de libre. Parce que là, avec les essais qui vont commencer dès le mois de janvier, puis c'est des essais qui vont être très lourds, il faudra pas. Là, il y aura pas le temps pour permettre à un jeune pilote de s'habituer. On voit déjà chez Sauber, on est déjà en train de préparer Sirotkin. Voilà, mine de rien, partout, on va essayer de miser sur la continuité et d'essayer d'avoir les pilotes le plus tôt possible à disposition. Ça va être d'ailleurs une question. Par exemple, est-ce que Kimi va venir que en janvier chez Ferrari, ou est-ce qu'il va venir, ils vont trouver un accord avec Lotus pour le faire venir plus tôt. Voilà, donc je pense sincèrement que dans toutes les équipes, on va assez rapidement officialiser les pilotes dès qu'on le pourra. On va pas autant jouer que par exemple on a pu voir l'année dernière, où c'est vrai que, enfin, Grosjean, on a attendu le mois de janvier, il y a d'autres pilotes qui ont attendu quasiment jusqu'au mois de mars pour être confirmés. Là, je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde vraiment d'avoir des équipes au complet le plus tôt possible.
Gus, le souhaite sur le chat, c'est dans 4 mois les premiers essais, hein, avec les nouvelles voitures. C'est plus pour longtemps.
Ouais.
Et justement, pour enchaîner.
Et on a toujours pas de manufacturier, c'est ça qui est bien.
Ouais, mais là c'est pareil, je pense que plus le temps avance, plus c'est probable qu'on reste sur les mêmes pneus. Hein. Mais vous avez été plusieurs dans l'équipe du SAV à vouloir parler du calendrier, puisque en effet, hein, le Mexique, qui normalement doit arriver, eh ben, il y a déjà eu une visite de Charlie Whiting, si je me trompe pas.
Ouais.
Sur le site.
Et c'est bien, j'ai confirmation, c'est bien le circuit des frères Rodriguez à Mexico City. Mm.
Ouais.
Donc ça, a priori, c'est plus que, enfin, c'est, on va pas dire que c'est sûr à 100%, faut attendre la confirmation officielle du calendrier, mais il y a là, on peut dire quand même que il y a de fortes chances qu'on revienne au Mexique l'an prochain.
Ouais, d'autant que c'était une visite qui était effectuée avec. Donc avec un architecte de chez Tilke, avec des promoteurs, avec qui est un membre de la FIA, qui est aussi le patron du sport automobile mexicain et qui est l'Europa FIA. C'est quand même quelque chose de toute façon pour être au pré-calendrier, même s'il faut faire attention à la valeur qu'on peut accorder à ce pré-calendrier, on en reparlera peut-être avec l'histoire de New York, mais pour être sur un pré-calendrier qui est communiqué aux équipes, il faut quand même que ce soit quand même assez avancé au moins dans les négociations. Pour les travaux, là le Grand Prix est indiqué pour le 7 et 9 novembre, c'est-à-dire que si l'inspection s'est bien passée, je pense que les premiers chantiers pourront être lancés assez rapidement et ne devrait pas y avoir trop de problèmes, parce qu'on ne parle pas d'une réfection complète du circuit, hein. On parle surtout de refaire quelques virages et de refaire les installations. On a déjà vu avec la Corée que c'est pas parce que les installations autour étaient pas forcément terminées qu'on pouvait pas faire un Grand Prix. Le Mexique, c'est quand même étonnant, parce que même si on sait qu'il y a une volonté, on pensait pas qu'ils étaient aussi prêts que ça, ça paraît quand même être assez bien avancé, et surtout qu'il y a quand même un grand mouvement des investisseurs au Mexique, parce que déjà il y a Carlos Slim, mine de rien, et il aura évidemment un rôle à jouer dans la venue de ce Grand Prix, donc ça paraît quand même être en très bonne voie, quoi, pour ce Grand Prix là.
Et alors sinon, autre circuit nord-américain, et là ça m'étonne pas, je crois que c'est Dino qui en a parlé, hein. Tu y crois, le New Jersey, tu veux le New Jersey.
Rappelons-le, ouais, parce que
ça peut être à New York, en fait, c'est au New Jersey.
C'est pareil. Habitants du New Jersey, vous êtes également des habitants de New York. Pour moi, hein, seulement pour moi. Non, mais on a eu pas mal de déclarations là cette semaine, notamment des promoteurs du Grand Prix, futur Grand Prix d'Amérique, qui insistent sur le fait que pour eux rien n'est mort. Il y a deux problèmes. On sait qu'il y a un premier calendrier, un premier jet du calendrier qui a fuité, que Bernie lui-même a dit qu'il le connaissait pas, il savait pas d'où il sortait, etc.
Oui.
Sous-entendant qu'on pourrait même aller avoir une ou deux courses de plus, hein. Et alors, il semblerait qu'il y a deux problèmes sur le Grand Prix, sur le Grand Prix de Port Impérial, ce magnifique circuit avec les buildings de New York en contrefort. Ah, ça va être beau. Le premier problème, c'est que s'ils sont pas dans le calendrier actuellement, c'est qu'ils ont pas payé, une sorte de redevance à la fédération américaine, ce qui fait que du coup, comme ils n'ont pas payé à la fédération américaine, ils peuvent pas être reconnus par la FIA. Donc du coup, ils peuvent pas apparaître sur un calendrier FIA. C'est ce détail technique. Ça doit être fait jusqu'au 20 septembre, parce que apparemment on leur a donné la date butoir du 20 septembre. On leur a dit le 20 septembre, c'est parce qu'il y a le Conseil mondial qui se réunit le 27. Donc voilà, pour eux, il y avait rien qui pressait, donc ils attendent pour le moment de payer ça. Le vrai enjeu pour eux, c'est d'être sur le calendrier provisoire, de manière à pouvoir aller chercher ensuite les investisseurs, parce que c'est la deuxième problématique pour eux, c'est la question des finances, qui là est le gros problème. Ils ont contracté un prêt, ils ont essayé de débloquer un prêt auprès d'UBS, je crois, par le biais notamment de Bernie Ecclestone, pour le moment ils ont pas réussi à réunir les 100 millions de dollars, je crois, ouais, c'est des dollars dont ils ont besoin. Et donc s'ils sont sur calendrier provisoire là, ça, eux ils disent, ça peut nous aider à réunir les fonds nécessaires. Donc voilà, on les sent quand même très prudents sur le fait d'être ou pas l'année prochaine. Ils y croient, voilà, ils essayent d'y croire, mais on sent quand même que c'est dur. Donc, chers auditeurs, si vous avez un petit peu d'argent, envoyez-les à Lewin Derry Jr., promoteur du Grand Prix d'Amérique, sur le circuit de Port Impérial, juste en face de New York, sur l'Hudson River.
Ils font comme tout le monde.
Dino, hein, qui transmettra.
Ils font comme tout le monde, ils feront un Kickstarter, voilà. Et enfin, dernière actu, ce n'est pas une nouveauté, mais la FIA a décidé de revenir au front. Oui, la FIA veut réduire les coûts en F1. C'est drôle,
Ferrari sont déjà dans la merde.
Intérieurement, je pensais la même chose.
Les Ferrari sont dit, attends.
Mais je crois qu'on le pensait.
On déjà reconnaît Alonso, on vient de péter le budget, les gars.
Et c'est qu'ils ont confiance dans les pilotes. Ils savent très bien que la voiture, ça va pas être terrible. Jean Todt, le bon vieux Jeannot, qui nous a dit que. Voilà, il faudrait vraiment que cette fois on réduise les coûts, les écuries s'entendent pas, donc il faut vraiment que la FIA puisse agir. Là tu te dis, voilà, quand même il y a une grosse volonté, ça va partir, Jean se réveille enfin. Et puis après il dit, quand les accords Concorde sont ratifiés, il y aura une nouvelle Gouvernance, un groupe stratégique. Alors, tu dis, ah, un groupe stratégique, là, quand même, bon, ça part fort. Puis bon, après, il te décompose le groupe stratégique et tu t'aperçois que la FIA, elle a toujours qu'un tiers des voix. Donc, tu peux te dire que finalement, ça va très bien se terminer encore cette histoire. Mais c'est bien d'avoir de la volonté. Faut encourager ça. C'est bien, c'est bien.
Non, puis, comme par hasard, il ressort ça. C'est au moment stratégique où il est candidat, aux élections de la FIA. C'est le mec qui dit, voilà ce que j'ai pas fait pendant 4 ans et ce que je vais essayer de faire lors des 4 prochaines années. Et promis, cette fois-ci, ça va marcher. Ouais, et c'est vrai, comme tu dis, quand il présente le projet, déjà, tu vois que ça marchera pas, quoi.
Et puis, en plus, il le fait vraiment pile au bon moment, quoi. Pile au moment, on change de moteur, nouvelle voiture, tu vois. Pile au moment parfait, demander à réduire des coûts, alors que tous les prix explosent. Ouais, si tu veux, Jean, si tu veux, ok.
Alors même que l'on s'apprête à un calendrier de 21 à 22 courses et qu'on est même en train de se demander si on aura suffisamment de moteurs. Voilà, il y a aussi ça. C'est qu'apparemment, il va peut-être falloir rajouter un moteur au quota de moteurs qui est de 5 pour le moment. Enfin, peut-être passer à 6 si le calendrier devient trop important. On est encore finalement très loin de réduire les coûts parce que même un changement de calendrier peut te rajouter des coûts supplémentaires.
On notera qu'il y a Kaltenborn de Sauber qui soutient tout absolument ce que vient de dire Jean-Tad. C'est bizarre quand même.
Ah bah les petites équipes, oui, ça les a.
Ah bah elles,
oui.
Ouais.
Elles auront...
surtout elles.
Voilà, surtout elles.
Elles ont moins économisé, elles, par rapport aux autres.
Ah bah ouais.
Mais c'est le truc justement, c'est que Sauber, ça fait des années qu'ils se battent pour ça. Ça fait des années qu'ils font des propositions qui sont rejetées. Là, je crois que ça a été rejeté par Red Bull, entre autres, mais ça fait des années qu'ils se font des propositions. Et ce qui est terrible, c'est que ça fait des années qu'ils font des propositions. Cette année, on voit qu'ils sont dans la dèche financière et que du coup, ils avaient peut-être raison de tirer le signal d'alarme. Et on ne fait toujours rien. Et on a juste un président de la FIA qui dit qu'il va essayer de le faire, mais dont on sait très bien qu'il est en campagne présidentielle et que voilà, il le promet, mais voilà, c'est l'arlésienne cette histoire de réduction des coûts. On n'y arrivera jamais parce que le problème est toujours le même, c'est qu'il faut l'accord des équipes et qu'il y aura toujours une équipe qui voudra dépenser plus pour gagner plus. Oh, mon Dieu, Nicolas sort de ce corps.
Rien à rajouter sur la réduction des coûts, à part que c'est un beau rêve.
Ferrari est pour aussi, hein, on l'a pas dit. Ils sont même pour un salary cap, il paraît.
Mais surtout, c'est que Ferrari apparemment ne va pas payer directement le salaire de Raikkonen qui sera payé par Shell. Ferrari, il faut payer Alonso par Santander, il faut payer Raikkonen par Shell, et il paye Domenicali.
Il n'y a pas d'argent du tout, en fait, dans cette équipe. Que dalle.
Non, en fait, non.
C'est des bouts de ficelle, voilà, c'est que les sponsors. Je vous propose, pour quitter les actus, de revenir sur le sondage que l'on avait posé il y a 2 semaines.
Oula.
Vous vous souvenez, c'était quoi le sondage? C'était une
évaluation de matériaux composites, un truc comme ça.
Oui, puisque Alonso a décidé d'investir dans une équipe cycliste. Ah oui.
Hein. Qui sera peut-être sponsorisée par Fiat.
Oui.
Je pense que Alonso a accepté d'avoir Kimi Räikkönen comme coéquipier à condition que Fiat sponsorise son écurie de cyclisme.
Donc nous vous proposions, après Alonso, dans quoi devraient investir les membres de la F1. Vous avez été 98 à voter. Personne n'a voté pour Di Resta dans le Jamel Comedy Club. Visiblement, même pas Ben, parce que c'est quand même le grand truc de Ben, ça. Hein. 2 votes Hamilton dans des auditeurs pour son disque. 4 votes pour Rosberg dans un salon de coiffure. 8 pour Bernie dans des juges. Pourtant, Dieu que c'est utile. 9 votes pour Chilton dans F1 2013 pour apprendre à piloter. 11 votes pour Vettel dans un casque, mais juste un seul. 12 votes Massa dans un volant. Pourtant, c'est le moment pour lui, hein. Et le podium, 15 votes Weber dans une usine de Kers. 16 votes Raikkonen dans une distillerie. Mais le grand gagnant, mais en même temps, c'est vrai qu'il y avait 3 pilotes, hein. Maldonado, Grosjean et Perez dans une usine de matériaux composites.
C'est pas un choix courageux.
Que vous êtes prévisibles, les gens.
Alors, avez-vous des idées pour un sondage cette semaine?
On arrive au bout d'un cycle, je crois. Les Grands Prix, on a fait. Les pilotes, on a fait. Les marques, on a fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait?
Qui pourra remplacer Jean-Todd à la FIA?
C'est vrai que c'est d'actualité.
Non, c'est vrai que, ouais, qui pourrait vraiment changer la Formule 1?
Oula, c'est ambitieux.
Oula. Voilà. Qui pourrait vraiment changer la Formule 1 s'il se présentait à la présidence de la FIA? Et là, on est obligé de mettre Chuck Norris et Obi-Wan Kenobi.
C'est des classiques. Ils seront élus par acclamation populaire, je crois.
il n'y a pas besoin. De toute façon, Chuck Norris, c'est par défaut. De toute façon, il n'a même pas besoin d'être la masse populaire. Mais je dis ça, je dis rien. Bah, c'est bien, moi, ça ne nous fait plus que 8 possibilités à trouver.
François Hollande. Soit le moment, c'est maintenant.
Pourquoi pas.
Tu le mets vraiment?
Je mets François Hollande. On verra, peut-être que les gens voilà.
Oui.
François Hollande. Ah bah oui, Max Mosley, quand même.
Moi, j'ai envie de mettre Sepp Blatter.
Oh bah oui, évidemment.
Parce que Sepp Blatter à la tête de la FIA, moi, je veux voir.
Jean Gachassin.
C'est qui c'est...
Patron de la Fédé de tennis.
Ah ouais, ah oui.
Bah au moins, là, le mec n'arrive pas à mettre un toit sur Roland-Garros, il n'en mettra pas sur les Formule 1, je vais te dire un truc.
Oui, c'est vrai.
Ça, quand même, c'est l'avantage.
Gus Gus sur le chat nous propose Jean Roucas, qui est extrêmement d'actualité, c'est vrai.
Non, c'est pas possible, il a une autre actualité. Il va se lancer dans autre chose.
Steph Corr nous propose Guy Roux. Ah bah, hey.
Ah bah oui, ah bah
pour
oui.
Pour faire des économies, oui. Je dis complètement oui.
On va avoir tous les pilotes se trimballer avec de la cristalline à la main.
Ouais, les banquets de FIA, la cristalline, ça sera pas pareil.
Ouais, j'ai envie de dire Margot Laffitte.
Oh, mais quel populiste.
Parce que quand on voit comment elle a modifié une perception du paddock grâce à son super Energy Station Margot Laffitte,
c'est vrai.
À la place du Red Bull, moi je me dis, la F1, ça peut avoir de la gueule.
Je plus sois.
Bon, si on reste dans les femmes, je dirais Tamara Eccleston. Pour faire une F1 encore plus bling-bling que... Qu'est-ce que
ce n'est, une F1 libre. la vraie F1 à papa.
Une F1, voilà.
Mais vous savez, on est déjà à 9.
Iti.
Non, mais pourquoi? Non, mais non, il a pas de programme, ce gars-là.
Bah oui, avec son doigt.
À part rentrer chez lui, excuse-moi, mais c'est vrai, il a pas de programme.
Comme Jean-Todd, tu me diras, mais bon, lui, voilà.
Non, Ben.
Il a un vocabulaire.
Ben dit sur le chat, Roscoe, non. On a déjà suffisamment parlé de Roscoe dans le SAV.
Il a acupuncture, il peut pas.
C'est vrai.
Poutine. Ce côté un petit peu...
Si on va comme ça, on peut mettre Bachar el-Assad. Hein. Voilà, on peut compter sur
lui. Ce serait plus drôle, Bachar el-Assad.
Attention, il ne nous reste qu'une place. Vous voulez Bachar el-Assad ou Vladimir Poutine?
Moi, je veux Dino.
Un ticket, on peut faire un ticket.
Dino qui préside la FIA.
Non, parce que les gens, ils vont voter pour Dino.
Ils veulent me mettre dans la merde, les gens. On a Ben qui propose Dieu. Et sincèrement, si Dieu n'arrive pas à faire quelque chose pour la Formule 1, on est mal barré.
Il y a Gus Gus qui nous dit Eva Jolie pour avoir des voitures à pédales.
Eva Jolie. Que préférez-vous, Dieu ou Eva Jolie?
La question comme ça. Je crois pas dans les deux, en fait. Donc,
le truc médiacage, quoi. C'est...
J'aime bien le choix. C'est... Tu vois, on te donne à choisir entre Dieu et Eva Jolie. Tu choisis qui? Attends, faut que je réfléchisse.
Certains choisissent Jacques Villeneuve. Tu vois, c'est... Wow.
Ah bah là, pour le coup, Jacques Villeneuve, elle a une vraie vision de la F1. Mmh.
Oui, je suis pas sûr qu'elle réunisse beaucoup de monde, mais...
Non, voilà, c'est toujours ça le problème.
Ah, sur le chat, Ben propose un entre-deux, hein, entre Dieu et Eva Jolie, Jésus. Et c'est pareil, hein, si Jésus ne peut rien faire, personne
entre
ne peut
deux.
Faire quelque chose pour la F1.
Entre deux, mais à quelle distance des deux? C'est la question que je me pose.
Je me demande si c'est vraiment entre les deux, tu vois.
Moi, je trouve que c'est une proposition intéressante, Jésus.
C'est-à-dire que chronologiquement, effectivement, c'est entre les deux, mais il y a quand même un problème, là.
DSK. Oh, c'est le grid girl qui nous met.
On est con.
Je pensais qu'on avait fini avec les blagues avec DSK, que ça nous faisait plus rire. Mais en fait, non. Ça nous fait toujours rire.
Il y a une recrudescence. DSK, son programme, ce serait encore plus de Pete Babes, en fait. Ce serait ça.
C'est ça, c'est vrai qu'on associe des
propositions.
Des idées fortes, des propositions à chaque personnage.
C'est vrai.
Et là, effectivement, DSK pour plus de Pete Babes, ça peut le faire.
Ouais. Que les gens ne peuvent pas voter que sur une personne, enfin ça n'existe pas, ça se fait pas, les gens votent pas.
En même temps, avec DSK, au bout de un ou deux grands prix, les Pete Babes, elles vont plus vouloir revenir. Hein.
Ouais, on peut mettre DSK pour plus de Pete Babes. Voilà. Alors dans ce cas-là, par exemple, pour Chuck Norris, on met quoi?
Parce que.
Il vous faut vraiment une proposition.
Obi-Wan Kenobi.
Ah oui.
Pour les néons sous les voitures.
Pour des pneus laser.
C'est bon.
Ah oui, parce que faut quand même rappeler que c'est que dans Star Wars, les véhicules terrestres n'ont pas de roues.
C'est vrai.
Ça pourrait peut-être arranger la Formule 1 en 2014 de ne pas avoir de roues.
Oui.
Ça peut être pas mal du tout. Ce sera la c'est nouvelle bien. Technologie 2014.
Donc, Obi-Wan pour des pneus laser. François Hollande.
Pour le changement, c'est maintenant.
Ouais.
Moi, j'aurais mis François Hollande, mais voilà, c'est tout.
Enfin, ouais. Non, moi, je suis... Non, je peux pas, je suis de gauche. J'ai pas le droit.
C'est ça. C'est difficile.
Ah non, mais on peut être François Hollande, parce qu'après le Mali et la Syrie, rien ne peut lui résister.
Ensuite, on a Max Mosley.
Oh bah...
Pour les mêmes raisons que Desk. Hein. Il veut plus de Pit Boys.
Pour les combinaisons en cuir.
Oui, voilà, pour l'introduction des combinaisons en cuir. Et des fouets.
Allez, France, une voiture. Proposition, les gars. C'est un sondage qu'on écrit, hein. C'est pas guerre épée qu'on écrit non plus.
Pas une profession de foi.
Voilà.
Bah, t'as mis quoi là?
Là, j'ai juste eu le temps de mettre confrère DSK, mais on peut mettre autre chose pour Max Mosley.
Ah non, faut mettre autre chose. Ouais, pour la combinaison en cuir, c'est bien. Pour l'introduction de, pour le port obligatoire de la combinaison en cuir.
Pour l'introduction, trois petits points.
Ok. Seb Blatter.
Pour la vidéo dans la Formule 1, non.
Pour l'introduction de l'arbitrage vidéo.
Jean Gachassin.
Pour un parce que le tennis n'en veut plus.
Le rugby et le tennis n'en veulent plus.
Ça, c'est une bonne base de programme, quoi.
C'est vrai, en plus.
Ensuite, on a Giroud.
Parce qu'elle est bonne, sa cristalline.
Pour des buffets, pour des banquets de la FIA à la cristalline. Non, mais non, parce qu'il ne faut pas gâcher.
Ah bah oui.
Ah ouais.
En voilà quelqu'un qui s'y prendra à ras-le-corps, la réduction des coûts.
Ah bah complètement.
C'est mon favori.
Margot Laffitte.
Parce que c'est comme ça. Un point, c'est tout. On a décidé. Et voilà, c'est tout.
Et Tamara Ecclestone.
Un peu pareil.
Idem.
Pour une gestion en bon père de famille. On arrive toujours à repousser les limites du sondage.
Complètement, oui.
C'est dingue.
Ça m'épate.
Parce que c'est complètement fou. Donc, cette semaine, on va proposer un sondage qui pourrait vraiment changer la F1 à la présidence de la FIA. Vous aurez le choix. Alors, je vais juste citer les personnes, hein, je noterai. Mais vous aurez aussi les positions. Entre Chuck Norris, Obi-Wan Kenobi, François Hollande, Max Mosley, Sepp Blatter, Jean Gachassin, Giroud, Margot Laffitte, Tamara Ecclestone et DSK. C'est une belle brochette de candidats quand même pour la FIA, tout ça, hein.
Il y a du leader. Hein.
On va passer aux actus dont on se fout. Mais vous savez bien, on s'en fout pas réellement. Et Dino, tu as voulu revenir sur la famille Andretti, famille illustre du sport automobile, qui se dit, tiens, ça serait vachement bien si on allait en F1.
Ouais, j'aime surtout c'est que c'est Mario Andretti qui a dit que l'idée pourrait être intéressante pour eux de revenir en Formule 1, enfin de venir en Formule 1, à condition d'avoir accès à des châssis clients. Et il dit notamment que voir une Ferrari bleue dépasser une Ferrari rouge, ça serait super. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il dit ça en mouillant son fils. C'est-à-dire, si ça c'était possible, je pense que Michael, il ferait une équipe. ouais, d'accord.
Vas-y fiston, je te regarde.
L'occasion aussi de revenir sur un retour, puisqu'on parle d'IndyCar. C'est pas encore officiel,
c'est vrai.
Parce qu'il faut encore qu'il moule son baquet.
Ouais. Ce qui reste la plus grosse étape quand même.
Ah bah, je crois qu'ils ont été. Et là, il faut qu'ils fassent une grosse commande. Les producteurs sont sur les genoux. Puisque Juan Pablo Montoya est de retour en IndyCar, et pas dans n'importe quelle équipe, puisqu'il s'agit de l'équipe de Roger Penske, avec Castro Neves et c'est Scott Dixon, je crois, qui est l'une des deux, trois grosses équipes du championnat. Voilà, donc c'est un gros retour, quoi. Je dis gros retour, mais...
Et sinon, Mario, il a pas mouillé non plus son petit-fils? Parce que quitte à avoir le fils qui crée l'équipe, autant mettre le petit-fils dans un des baquets.
Ouais, parce que c'est pas Mario qui a... C'est pas Mario... Quand c'est pas Michael qui a laissé le plus de souvenirs impérissables en Formule 1.
Non plus.
Oh, son duel avec Senna. Le moment où Senna lui prend un tour. Ah là là, au troisième tour.
Sacré.
Sinon, Dino, tu as été attiré par cette actualité ô combien surprenante. Renault restera le motoriste de Red Bull. Oui, c'est une actu folle, mais elle est beaucoup plus intéressante qu'on pourrait le croire.
Bah oui, c'est-à-dire qu'on a longtemps envisagé que Infiniti puisse prendre la place de Renault, enfin que Renault rebadge le moteur l'année prochaine chez Red Bull par Infiniti, et Renault a clairement dit que ça serait pas le cas, qui voilà, il y a eu beaucoup de doutes sur les relations, les bonnes relations entre Renault et Red Bull, et donc Renault restera bien le constructeur, Red Bull restera bien le constructeur numéro un de Renault, jusque même dans le nom de Renault qui restera associé à la marque.
Ça restera des Red Bull Renault.
Ça fait écho aussi à la petite communication d'après Grand Prix de Vettel dans les messages radio là quand il félicite en français Renault. Pas mal hein.
Ah mais ces Allemands, où est-ce qu'ils ont appris le français aussi bien?
Colonie de vacances.
Sinon, une autre actu que tu as citée, Dino.
Oh, mais dis donc.
Je cite, mais ça m'a interpellé, le secret de la Mercedes dévoilé. Alors, je me suis dit, il va peut-être nous sortir un truc à la Da Vinci Code, un truc comme ça, je sais pas. Dis-nous.
On a découvert le secret qui se cache derrière le fait que Mercedes gère mieux ses températures de pneus. Voilà, on pensait que c'était les essais Pirelli, et en fait, non. C'est une petite astuce qu'a trouvé Mercedes dans la conception de ses jantes. En fait, l'intérieur des jantes n'est pas lisse, mais il est un peu gaufré. Et comme il est un peu gaufré, il y a plus de surface. Et s'il y a plus de surface, il y a plus de refroidissement. Donc apparemment, c'est ça le secret de la Mercedes, c'est qu'ils ont des jantes. Alors je pense que Gus Gus serait 10 fois plus compétent pour en parler, mais bon, il n'est pas là. Mais voilà, c'est quand vous regardez les jantes à l'intérieur, là où se retrouve normalement le moyeu de la roue, là où c'est lisse chez les autres équipes, chez Mercedes, c'est gaufré. Et comme c'est gaufré, il y a plus de surface. Et donc en termes de refroidissement, bah plus c'est comme si ça agrandissait la surface exposée, et donc du coup ça permet de mieux réchauffer. Puis je pense que ça doit aussi faire des micro-alvéoles qui doivent aussi aider au refroidissement à la circulation de l'air et au refroidissement de l'intérieur de la jante pour améliorer le contrôle de la température dans le pneu et donc sur le pneu.
Oasis dit très justement sur le chat que pourtant il faut de la chaleur pour une gaufre.
C'est vrai.
Mais c'est peut-être comme ça qu'il s'est sorti tout seul, hein, Oasis.
Oui.
C'est peut-être comme ça que c'est venu d'ailleurs. Ils se sont peut-être dit, oh putain, ouais. Les gars, on se fait des gaufres.
Cette année, on va se gaufrer encore, les gars.
Bah écoute, si t'as oublié le gaufrier, c'est pas grave. Prends une jambe, tiens, de toute façon, il doit être encore chaud. Ça fait que 3 heures que la course est terminée. Et les mecs ont fait des gaufres, ils se sont dit, ah, c'est pas con.
Sinon, autre actu. On l'avait peut-être légèrement évoqué il y a 2 semaines, mais rappelons que. Mercredi prochain, on est le 25 septembre. Et qu'est-ce qui arrive le 25 septembre ?
C'est mercredi prochain ?
Ouais.
Ah. Eh oui.
Oh la vache.
Eh oui.
Le nouveau film de Ron Howard. Mais ça, c'est... on vous dirait ça si on était sur un podcast sur le cinéma. Non, nous, on vous dit, oui, il y a Rush qui débarque la semaine prochaine. Et alors là, en plus, il y a les critiques qui commencent à tomber. Et bon, non seulement les critiques plutôt sport auto avaient l'air plutôt bonnes, voire très bonnes, mais il semblerait que même auprès de gens qui ne sont pas forcément fans de Formule 1, mais des critiques plus cinéma, apparemment c'est un bon film, et c'est un des bons films de la rentrée.
Ouais, d'ailleurs, moi j'accorderais plus de crédit aux critiques hors sport auto, parce que, on le sait bien, on est quand même dans un milieu qui est assez sevré de ce genre de produits culturels. Donc je pense que beaucoup ont envie de voir un bon film dans ce film. Même si c'est vrai que ça, de ce qu'on en voit, ça a pas l'air d'être un film dégueulasse comparé à un précédent malheureux. Mais c'est sûr que la presse spécialisée dans le cinéma a l'air de vraiment bien accueillir.
Bien accueillir. Hein,
voire même très bien accueillir le film. Donc c'est plutôt encourageant. Alors après, c'est toujours pareil, il faut se faire sa propre opinion. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'avis négatif, quoi. Ça reste, même les notes qui sont moins bonnes restent des notes correctes, donc c'est plutôt encourageant.
C'est ces critiques-là qui sont les plus importantes, parce que c'est ce qui va, entre guillemets, faire le succès du film. Que sur les sites ou dans les magazines de Formule 1, on achète des couronnes de fleurs au film, bon, c'est bien, mais ça, ça reste quand même de l'ordre de la niche. Ce qui est important, c'est que des magazines comme Première, comme Allociné, comme je connais pas beaucoup, comme Studio et compagnie, je pense que le fait que ces critiques-là mettent en avant, ou même dans les journaux, Libération et compagnie, qu'on puisse mettre en avant ce film-là, c'est très bon pour la Formule 1 parce que ça va peut-être encourager les gens aussi à se réintéresser. Un grand public se désintéresse de plus en plus, en partie parce que la F1 est sur Canal Plus aujourd'hui et en accès payant, mais de toute façon ils s'en désintéressaient déjà un peu avant, même quand c'était sur TF1, les audiences n'étaient pas fantastiques. Donc ça a peut-être aussi redonné au public de manière générale l'envie de se réintéresser à ce sport.
Ouais, d'autant qu'on est là dans une phase assez faste parce que outre donc le film Rush, le projet aussi de Tobey Maguire sur la saison 61 entre la lutte pour le titre entre Phil Hill et Wolfgang Von Trips, qui reste toujours quand même à l'état de projet, hein, parce que c'est quelque chose dont on parle depuis plus longtemps que Rush et c'est quand même toujours pas concrétisé. Mais enfin bon, ça reste un truc dans l'air. Il y a aussi le documentaire de Roman Polanski sur le week-end avec Jackie Stewart à Monaco. Je sais plus quelle année, je dirais 72. Et il y a aussi un projet de film apparemment où Michael Fassbender serait le narrateur d'un documentaire sur la F1. Donc là, on est vraiment sur une mode, on va dire, des films de F1. Et c'est vrai que c'est pas pour nous déplaire parce que c'est souvent un genre qui est très peu exploré, bah, parce que c'est difficile à explorer. Mais bon, il y a quand même effectivement on sent quand même un engouement certain pour la course. Alors pour une certaine époque, hein, bien sûr, parce que voilà, la F1 d'aujourd'hui n'a pas forcément les mêmes ingrédients pour plaire et c'est difficile outre l'aspect
sportif. Mais ça traduit ça aussi peut-être. Ça traduit justement une certaine forme. Je pense que ça joue aussi sur cette nostalgie de beaucoup de gens qui ne reconnaissent pas dans la Formule 1 aujourd'hui ces histoires fantastiques qu'on pouvait avoir dans la Formule 1 des années 60, 70 et 80 et qui ont disparu dans l'anonymat des années 90 parce que les années 90 elles-mêmes dans l'histoire de la Formule 1 restent quelque peu anonymes et dans la période de domination de Schumacher et actuellement de Vettel.
Ah ouais, non, tout à fait. Puis voilà, c'est clair que mine de rien, pour faire un film sur la Formule 1, la notion de danger est essentielle dans le. Ce qui est d'ailleurs une des choses qu'on a reproché à Driven. Parmi les beaucoup de choses qui étaient reprochables, c'était aussi de jouer beaucoup sur cet aspect spectaculaire, de le faire à outrance. Mais même si c'était mal fait, bien sûr très maladroitement, c'était quand même aussi signe d'une volonté, quoi. Là aujourd'hui, la F1 actuelle est plus assez dangereuse, sans doute sans doute aussi sur le plan sportif plus assez attrayante. Mais bon, c'est après. Moi, on pourra toujours dire ce qu'on veut. Moi, je pense qu'on survend l'opposition Hunt-Loda parce que effectivement c'est le sujet du film, mais c'est quand même quoi qu'on en dise, c'est pas une des grandes oppositions qui reste quand on parle de Formule 1. Là c'est vrai qu'elle est prétexte à
elle est dramatique parce qu'il y a à la fois l'accident de Loda et puis il y a ce final sur le mont Fuji. Mais après, c'est vrai que c'est pas non plus la grande rivalité. Enfin, il y en a d'autres qui nous viennent en tête bien avant.
Voilà. Mais bon, c'est aussi intéressant.
Ça arrivera plus tard. Oui. Rêvez pas, il y en aura un film sur Senna et Prost. Il y en aura un.
Mais il y avait déjà un projet avec, comment il s'appelle ce comédien? Celui qui jouait dans, c'est lui qui a interprété Che Guevara dans
Antonio Banderas.
Non.
En Benicio del Toro.
Non, c'est pas Che Guevara, c'est l'autre. Oui, non, c'est Che Guevara jeune dans Berdal.
Bernal.
Oui, Luis García Berdal ou un truc dans le genre qui devait jouer le rôle de Senna dans un film brésilien, un film à gros budget international brésilien. Ouais. Mais bon, ça c'est pareil, ça reste à l'état de projet.
Oh, mais là c'est, enfin. On en reparlera peut-être à l'occasion de la sortie, mais c'est vrai que c'est monumental s'attaquer à Senna, quoi. On voit mal en fait comment un film, parce qu'en plus avec le documentaire qui a été réalisé Senna récemment, on voit mal comment un film pourrait apporter une telle intensité, quoi. C'est ça le plus terrible, parce qu'à la limite Hunt Loda c'est plus lointain, c'est mine de rien plus anonyme parce qu'on était dans les débuts de la diffusion de la F1 pour un public important et encore même pas d'ailleurs, mais voilà, c'est quelque chose dont on a moins de repères là-dessus. Sur Senna tout a été dit, tout a été écrit, le documentaire est venu vraiment parachever le travail de connaissance du mythe. Enfin, là, pour s'attaquer, faut vraiment sortir les grands moyens, quoi. Ou alors faire un film plus intimiste, au contraire. Mais ça me paraît délicat. Moi, très franchement, j'y crois pas du tout, quoi.
Senna, mais sans aucune scène de Formule 1.
Ça serait bon, hein. Ça, c'est un concept.
Non, mais tu peux très bien imaginer un film qui se concentrerait sur le week-end d'Imola, par exemple.
Ouais.
Oui, pourquoi pas.
Je pense que c'est le truc, c'est que face à des, là on l'a vu par exemple avec le, attention, on arrive dans la minute cinéma, avec avec Diana par exemple, plutôt que de faire un grand biopic qui retrace toute la vie de Diana, où on s'intéresse à un petit passage de sa vie sur lequel on va essayer de faire saisir la grandeur du personnage. C'était pareil avec Hitchcock où on s'est concentré sur un film en particulier, je sais plus lequel d'ailleurs, c'est Psychose je crois, où on s'est consacré sur le tournage de Psychose et d'essayer de faire le portrait pendant cette période-là, en fait. Aujourd'hui, je suis un grand fan de biopic, et aujourd'hui, la tendance des biopics, c'est vraiment de se concentrer sur un moment qu'on dit clé de la vie du personnage et essayer de faire sentir tout le personnage à travers ce moment-là, voir comment il a réagi, soit face à un tournage compliqué, soit face à la mort, enfin voilà, ce genre de choses.
Je vous propose de passer aux citations. Alors,
on a Gus Gus qui nous dit sur le chat, qui nous dit quand même sur le chat que un film qui s'appellerait, qui mettrait en scène Senna sans aucune scène de Formule 1, ce serait un biopic de Bruno Senna. C'est méchant, Gus Gus.
Alors, avez-vous préparé vos citations pour cette semaine?
Oui. Maintenant, est-ce que je l'enregistre et non?
Moi, j'en ai préparé, mais on en a déjà pas mal parlé en plus.
Ah, bon, si tu choisis mal tes citations. Moi, ce serait une citation. Alors, j'ai pas le texte exact parce que tout simplement, j'ai pas sauvegardé. Hein. Je découvre mon ordinateur. Hein. C'est une citation de Oksana Kosachenko, qui est l'ancien manager de Vitali Petrov et actuellement qui est engagé dans l'événementiel et qui a déclaré à un journal russe à propos du Grand Prix de Russie, qu'est-ce qu'elle a dit déjà? Que oui, avec les concurrents qu'il y avait en ce moment et les discussions qu'il pouvait y avoir en cours avec pas mal de pays, que ça pouvait compliquer le cas de la Russie. Et c'est vrai que se pose quand même la question de la Russie au calendrier de la Formule 1, que ce soit à la fois sur les délais des travaux, mais aussi sur un plan politique, où on sait que visiblement les JO commencent déjà à faire un peu de bruit avec Poutine. Derrière, il y aura le Grand Prix de Formule 1 qui risque aussi de faire du bruit. Alors qu'en face, il y a peut-être aussi de nouvelles perspectives, le Mexique, les États-Unis aussi qui veulent se renforcer sur la F1, et un calendrier qui pour le moment commence quand même à montrer ses limites. 20, ça semble vraiment la grosse limite. Donc peut-être qu'effectivement la Russie pourrait se profiler comme un projet mort-né, à en croire Oksana Kosachenko, qui s'appuie notamment sur le fait que ce qu'elle reproche, c'est surtout le choix de Sochi comme ville haute, notamment parce que c'est quelque chose d'assez bourgeois et notamment pour les oligarques russes. Et qu'en plus, ça va pas du tout ouvrir aux fans russes qui, pour le même prix, peuvent aller au Hungaroring ou peuvent aller en Allemagne pour aller voir des grands prix sur des circuits autrement plus significatifs, et parfois même pour moins cher que ce qu'ils auront à payer pour aller voir le grand prix à Sochi.
Après, oui, cette idée que c'est peut-être pas le lieu idéal, ça rejoint aussi la volonté actuelle de la Russie, de Poutine, de rayonner à l'international. Et ce dont on a beaucoup parlé, notamment lors des championnats du monde d'athlétisme, c'est-à-dire la volonté de passer par le sport pour finalement redorer l'image d'une Russie un petit peu fermée sur elle-même, un petit peu puis un petit peu aussi austère, en passant par le biais des compétitions sportives, avec les événements qui succèdent en Russie. Il y a eu les championnats du monde d'athlétisme, il y aura la Coupe du monde de football, il y a un Grand Prix de Formule 1. Voilà, enfin, on est sur une politique qui, je pense, dépasse le simple cadre de la Formule 1. Alors effectivement, c'est peut-être pas le bon lieu, mais je crois que c'est une volonté qui fera que au contraire le projet se fera malgré tout, peut-être en dépit d'un certain
en présence de Poutine. Ça a été signé.
Pour
le coup, c'est vraiment un grand prix pour le coup vraiment national, parce que il est voulu par le gouvernement, il est signé par le gouvernement, financé par le gouvernement, enfin voilà, c'est
C'est sûr, il y a une volonté politique derrière, quoi. Donc c'est pour ça que moi je pense que ça se fera dans de bonnes conditions. Après, qu'il y ait un public ou pas, c'est pratiquement Ouais. Après, ça tout dépend de ce que l'État russe veut mettre derrière tout ça, quoi. Est-ce que c'est une volonté à long terme? Est-ce que c'est une volonté à court terme? On le saura assez vite, hein, de toute façon, ça.
Fab, une citation?
Oui. Alors moi, c'est une citation de Paul Embury, qui avait été qui a été interrogé par Fan F1 d'ailleurs dans le paddock de Monza. Ce bon Polo nous dit nous avons fait ce que le sport voulait que l'on fasse. Si besoin, nous pouvons faire des roues de 18 pouces, 20 pouces, nous ferons 20 pouces afin de ressembler aux voitures de route. Si vous voulez faire un arrêt, nous ferons un arrêt. Si vous ne voulez pas plus d'un arrêt au stand, il n'y aura plus d'arrêt au stand. Ce n'est pas de notre ressort. Nous travaillons pour le sport et essayons de faire ce qu'il nous dit de faire. Donc c'est vrai que moi aussi je trouvais qu'on parlait pas assez de Pirelli en ce moment. Mais c'est aussi voilà pour dire que on sent quand même dans l'interview de Emberry un certain ras-le-bol quand même vis-à-vis de toutes ces polémiques et du fait que Pirelli est constamment tensé, même si c'est pas de leur ressort. Et là, il dit voilà, nous on peut faire à peu près tout. On peut faire des pneus en bois qui tiennent toute une course. On peut faire des pneus qui tiennent 3 tours. Voilà, on peut faire des pneus de la taille que vous voulez, mais en gros, respectez-nous parce que on fait ce qu'on nous demande et on fait pas ce qu'on veut. Et on est déjà c'est en filigrane, mais on est déjà bien gentil de faire ça avec les retombées médiatiques qu'il y a derrière. Quoi.
C'est vrai que Pirelli, on aimerait quand même un jour les. Moi, j'aimerais un jour qu'ils nous disent ce qu'ils seraient prêts eux à proposer à la Formule 1. Voilà, sans avoir à répondre à un cahier des charges, qu'est-ce que eux ils aimeraient avoir comme pneu proposé comme pneu en Formule 1. On sait que là ils répondent à un cahier des charges et compagnie. Maintenant, moi, je serais curieux de savoir parce qu'ils sont quand même assez créatifs. Ils ont des idées. Qu'est-ce que eux, s'ils avaient le choix, qu'est-ce qu'ils nous proposeraient et je pense que ça pourrait être assez intéressant.
Oh oui, non mais c'est sûr. Et puis globalement, ça a pas forcément à voir, mais je pense que ça serait intéressant de réinstaurer peut-être une concurrence malgré tout, parce que le problème actuellement, c'est qu'on a un manufacturier unique, on lui impose en plus une certaine façon de faire. Alors même si la F1 c'est peut-être plus autant ça, mais c'est quand même aussi des avancées technologiques. Alors évidemment, arriver à faire des pneus qui tiennent moins longtemps tout en étant sûr, c'est une avancée technologique. Mais il faut quand même pas non plus oublier que faut pas que la F1 s'éloigne trop aussi de cette recherche de l'absolu en matière technique, quoi. Et peut-être que réintroduire une concurrence, ça ferait tomber de fait ces exigences-là, parce que autant tu peux le faire sur un manufacturier, t'es sûr que les pneus seront tous les mêmes et donc seront tous à un certain standard au niveau de la tenue. Mais quand t'as deux manufacturiers, moi déjà ça me paraît complètement impossible de penser que si Michelin arrive en F1, t'aurais toujours les mêmes règles. De fait, ça serait complètement faussé parce que les écuries, elles n'iraient pas vers le manufacturier qu'elles savent le moins résistant, mais au contraire celui qui ferait les pneus les plus solides. Donc, ça serait complètement biaisé comme système. Globalement, je suis d'accord avec toi. Il faudrait qu'on puisse laisser aux manufacturiers la liberté de produire ce qu'ils ont envie de produire. Bon, je sais pas, mais c'est sûr que si tu fais revenir à un autre manufacturier en face, la liberté, tu la perds aussi de fait. Donc c'est sûr, faudrait laisser Pirelli faire, mais est-ce qu'on serait content avec ça? C'est toujours pareil, quoi. C'est quand même assez inextricable comme problématique.
Alors pour ma part, c'est une citation de Patrick Louis, qui est directeur général de Lotus. Une équipe ne doit pas être un château de cartes qui s'affaisse lorsque l'on en retire une. Ils sont donc plutôt confiants chez Lotus, malgré les fuites un peu partout. Comme on l'a dit.
La Ferrari vient quand même de retirer un jeu de 32 cartes. Hein.
Ouais.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'ils ont retiré la table, là, en fait, hein, Ferrari, il faut quand même le dire.
En expliquant que finalement, si quelqu'un part, c'est pas grave. Hein, il a toujours un adjoint qu'on peut faire, qu'on peut promouvoir. Là, c'est vrai, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de cartes qui sont parties en même temps, quand même. Hein.
Et quand l'adjoint part, on prend l'adjoint de l'adjoint. Et quand l'adjoint part, on prend le gardien,
le stagiaire.
On fait tout concevoir par Romain Grosjean.
Oula.
Oh et je sais pas si c'est quoi, c'est le week-end dernier justement quand il était avec son ingénieur moteur, le mec il lui disait des trucs et après il disait face caméra, bon là j'ai rien compris mais ça va, y a pas de problème, tout se passe bien.
Jennifer, une citation?
Moi ça reprend sur le débat, l'arrivée de Kimi chez Raikkonen, chez Ferrari, pardon. Et c'est Stefano Domenicali qui l'a dit, on ne s'attend pas à ce qu'il raconte des blagues en italien, on te passe le clown. Donc en fait, tout simplement, ça me fait penser qu'en fin de compte, Raikkonen, je pense qu'il a plutôt fait le bon choix, malgré ce que tu disais, Dino, tout à l'heure, que c'était vraiment son troisième choix. pense qu'il a une meilleure place chez Ferrari que chez Red Bull. Ou avec Red Bull, il aurait été... Enfin, ils ont une promotion qui est assez forte de la part de leurs pilotes. Enfin, ils demandent énormément au niveau de leurs pilotes pour la promotion. Et je pense que c'est une, ils connaissent bien Kimi Raikkonen.
C'est donc, certainement l'un des aspects qui a foiré avec Red Bull.
Ouais, je pense aussi. Donc, je le voyais. Franchement, je le voyais pas du tout chez Red Bull. Donc voilà, c'est une petite citation prise très rapidement.
Ok. Eh bien, on va passer au répondeur.
Oh merde.
Le service après-vente de la F1 vous présente le répondeur du SAV. Vous avez une question ? Nous y répondons.
Et nous avons eu des questions au répondeur cette semaine. Alors, Adelin nous a envoyé une question via le module audio, mais elle est arrivée un peu tard, mais on la traitera lors de la prochaine émission. Ne t'inquiète pas, Adelin. Mais Adelin n'a pas été le seul à nous envoyer des questions, puisque Quentin nous a envoyé deux questions. Et je crois que c'est Fab qui va y répondre.
Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, Quentin, est-ce que c'est le Quentin que l'on connaît ? Le Quentin leader du Fantasy F1 ?
Regardez comment il a placé un petit peu de pub pour Fantasy F1.
Ah bah c'est tout un métier, vous savez.
Réponds à la question. De toute façon, la réponse est pour tout le monde.
C'est vrai, c'est vrai.
Oui.
Veux-tu rappeler les questions d'ailleurs ?
Oui, alors la première, hein, d'ailleurs lui-même disait que la question était peut-être bizarre et peut-être sans réponse. Pourquoi voit-on souvent les directeurs ou ingénieurs des équipes regarder le départ depuis le stand plutôt que sur le muret ?
Alors, la question paraît effectivement étonnante, mais elle est en fait très intéressante parce qu'il suffit de se plonger dans le règlement sportif 2013 pour comprendre et de regarder notamment aux procédures de départ et l'article 38.10 qui indique que pendant le départ, le muret des stands doit être dégagé de toute personne, à l'exception de deux membres de chaque équipe, des officiels bien entendu, et ainsi que les commissaires chargés d'éteindre les possibles incendies. Donc c'est bien sûr pour des raisons de sécurité, hein, et non pas pour des raisons qui seraient liées au fait qu'on voit mieux depuis les stands, je pense. Donc voilà, alors malgré tout, après, il y a possibilité de demander une autorisation spéciale pour plus de membres d'y figurer, mais en l'état, il faut qu'il n'y ait que deux personnes de chaque équipe. Alors, on peut imaginer que ce sont les ingénieurs de chaque pilote, quoi, les personnes détachées à chaque pilote durant la course, qui sont en train de donner les dernières consignes, parce qu'effectivement, on voit assez rarement les directeurs d'équipe rester sur le muret des stands. On les voit plus volontiers au fond du stand à regarder l'écran.
Tu veux la deuxième question ou c'est...
Vas-y. Hein,
là, Quentin nous demande des explications sur le volant, hein, puisque on voit une molette qui permet de régler le KERS, habituellement sur les volants de Formule 1. Mais que peut-on régler justement avec ces molettes dédiées au KERS ?
Alors, avant de répondre, je tiens quand même à préciser que le texte que je vais lire a été concocté par l'ami Gus, qui évidemment est une caution technique importante, parce que bon, moi, je comprends pas ce qu'il dit. j'ai essayé de vous le faire passer le mieux possible. Mais voilà, donc c'est approuvé par Gus et c'est tiré donc du règlement technique, cette fois-ci 2013, qui permet de comprendre en réalité ce qu'on peut régler à partir d'un volant, en tout cas ce qui est réglable sur le KERS, c'est notamment à partir du volant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde dans le règlement, la quantité maximum d'énergie restituable par tour, elle est égale à 400 kilojoules. Et à côté de ça, la puissance du moteur générateur, c'est-à-dire ce qui va permettre de à la fois récolter l'énergie cinétique du freinage et de le restituer ensuite au niveau du moteur, cette puissance-là, elle, est limitée à 60 kilowatts. Quoi ?
Laisse-le faire son intelligent qui comprend pas ce qu'il lit.
Il est pas crédible, c'est terrible.
Coupe ton micro.
Bon, je reprends pour les deux du fond. Donc, les 60 kW que développe le moteur générateur, ça correspond peu ou prou à 80 chevaux. Alors, malgré tout, et c'est là qu'il faut bien comprendre, c'est que rien n'interdit de faire fonctionner le moteur générateur à une puissance plus faible. Parce que dans le règlement, ce n'est pas une limite de temps qui est fixée, mais une limite de puissance. Donc là où dans le règlement, enfin là où la puissance correspond à 6,66 secondes au maximum de la capacité du moteur générateur, on peut très bien choisir dans l'équipe de diviser par exemple la puissance par 2, et dans ce cas-là, on a une puissance de 30 kW mais pour 13,3 secondes par tour. Et donc finalement les petites molettes que l'on voit sur les volants des Formule 1, ça sert à ça, ça règle à régler la puissance. Ça peut servir à régler la puissance mais aussi à régler la puissance emmagasinée à chaque freinage. Et pourquoi faire ça? Alors là Gus Gus pense à deux cas. Alors dans un premier temps, si le système surchauffe.
Ah non, ta gueule. On va laisser les auditeurs sur ce suspense. Gus pense à deux cas.
Voilà. Si le système surchauffe, qu'est-ce qui se passe? Et vous le saurez la prochaine fois.
La semaine prochaine.
C'est dégueulasse. Merci. Tout à fait.
Je dois balancer, c'est sur une proposition de Ben. J'attendais juste le bon moment.
Et bien donc... suite à ce répondeur brièvement interrompu, on vous rappelle quand même que si vous souhaitez poser des questions au répondeur, vous avez deux possibilités. Le module audio sur le site savf1.fr ou bien par écrit sur l'adresse mail répondeur@savf1.fr. N'oubliez pas que pour les émissions d'après-course, il y a le concours Top Position, que cette semaine, c'est une question qui concerne Rolex et la publicité Rolex dédiée à la Formule 1, qui affiche des plans justement venant de Grand Prix de Formule 1, et l'on vous demande justement de nous citer au moins 6 Grands Prix qui apparaissent dans cette pub de 30 secondes de chez Rolex. Il y en a certains, c'est facile, et il y a certains plans, je sais même pas si c'est possible de trouver d'où vient le Grand Prix. Normalement, tu dois t'y pencher dessus, d'ailleurs, Dino. T'avais dit, tu
regarderais et tout. Je vais enquêter.
Ah, hein. On vous rappelle que si vous souhaitez participer aux émissions d'après-course, dans ce cas-là, il faut envoyer un mail à contact@savf1.fr. Qu'en est-il du planning, Dino?
Alors le planning, je l'ai pas en tête. On va aussi en profiter pour faire part d'un petit changement qui va sans doute survenir pour des raisons purement pratiques qui font que vous avez sans doute pu le constater la semaine dernière. On a pu livrer l'émission que le jeudi matin. Voilà, c'est extrêmement difficile aujourd'hui d'avoir un auditeur, d'être sûr de sa qualité audio et compagnie. Donc ça pose des problèmes. Ça nous oblige aussi derrière à passer en revue la piste et faire un peu le montage. Et c'est aujourd'hui une charge de travail qui est très complexe, donc on envisage la possibilité de passer en live également pour les SAV d'après Grand Prix. Voilà, théoriquement, je crois que sur Singapour, il n'y a pas de candidat. Donc pour Singapour, on fera sans doute une première émission test en live, si le live fonctionne. Et puis ensuite, on adaptera le calendrier en fonction des gens qui ont demandé. Voilà, donc demandez toujours, mais on va quand même sans doute devoir changer le système. Là, pour le coup, c'est vraiment pour notre confort à nous, parce que sinon, on peut pas. On ne sera pas en mesure de vous livrer toutes les émissions en temps et en heure, et c'est ce que nous permet de faire le live aujourd'hui, c'est de vous livrer rapidement l'émission, pas d'attendre 2 jours quasiment après qu'elle ait été tournée pour que vous puissiez l'écouter.
On vous rappelle comme d'habitude que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur la chaîne Alpha de Pod Radio, c'est sur Podcast France, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter avec le hashtag SAVF1. Et bien évidemment maintenant, c'est en live
sur www.savf1.fr/live.
C'est tout bête, hein.
Je donne l'adresse parce que
c'est pas compliqué. Normalement, les lives, s'ils commencent à l'heure, ça devrait être à 20h30.
Oui, déjà noté aussi. À noter qu'on vous prévient aussi sur Twitter, sur la page Facebook, on créera un événement quand il y a un live pour préciser l'heure, etc. Voilà, on va essayer de rester autour de la même heure, mais au moins comme ça, on vous serez informé.
N'oubliez pas, la F1 sur Internet, c'est sûr.
FunFR.com, bien sûr.
Parce que le SAV de la F1, c'est...
le Ritz des podcasts.
C'est la famille.
Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu le Ritz des podcasts.
Ah ouais.
Bah ouais, pour ça que je l'ai ressorti, c'est ressorti naturellement, quoi. Fab, je te rappelle que c'est toi qui chronomètre. C'est la nouvelle règle imposée par Shuji. C'est celui qui reçoit le ta gueule qui se débrouille pour compter le temps.
Voilà.
Là, théoriquement, t'es pas trop loin.
Oui. Alors, avez-vous un dernier petit mot pour cette fin d'émission ?
Moi, je dirais bienvenue.
Donc, finalement, les deux cas, dans un premier temps, c'est que si le système surchauffe, on peut le mettre moins à contribution en baissant la puissance du moteur générateur pour qu'il puisse revenir à des températures plus fraîches. Et d'autre part, l'autre cas possible, c'est que sur des circuits bosselés comme Monaco, on essaye d'éviter les micros sur régime. Hein, tu connais bien ça, Dino, qui font mal au moteur thermique. Donc, on peut préférer limiter la puissance du KERS pour mieux préserver le V8. Et pour finir, hein, je ne résiste pas au plaisir de vous narrer ça, le KERS participe au freinage à l'arrière. Alors, lorsqu'on diminue la puissance de la récupération d'énergie et donc la quantité de freinage du KERS, il faut déplacer la répartition des freins vers l'arrière pour garder l'équilibre et éviter de bloquer les roues avant. Mais pas trop, parce que sinon, ce sont les roues arrière qui menacent de s'allumer, ce qui est beaucoup plus dangereux.
Et dire que moi, je me fais engueuler quand j'ai le malheur de dire trois mots, hein.
Non mais
vas-y, fais péter le jingle, allez, bye bye, à la semaine prochaine, voilà, hein. Je suis chef.
Là tout de suite, comme ça.
Oui.
Comme, d'accord. Bon, t'as de la chance, ça marche. Ça va le faire. Au revoir.
Salut.
Salut. Salut.